Allez. Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc le sujet qui a été choisi, c'est sur l'éducation. Évidemment qu'il faudrait vraiment un séminaire en réalité de plusieurs semaines. Mais on va essayer de faire quelque chose de condensé, en plus c'est enregistré. Et vous pouvez le réécouter pendant une dizaine d'années de toute façon. Donc la dernière fois on a fait des enregistrements. Il y a eu un peu de diffusion ? Ils sont là ? Alors, je vous explique l'intérêt. Je vous donne quelque chose qui est très très condensé. Vous pouvez travailler dessus. D'accord. C'est dommage de l'écouter une fois, puisqu'en moyenne, un discours normal, on retient 10%. Donc un discours condensé, c'est à peu près 2%. C'est dommage, de ce qu'on a compris, bien sûr. Donc là, on va faire quelque chose de très, très attaché, de très intéressant. Mais moi, je compte sur l'enregistrement. C'est pas pour moi. Moi, ça change rien. Je l'ai écouté à peu près une centaine de fois. Mais pour vous, si vous voulez travailler dessus, ça peut vous faire gagner des années, pour que je n'ai pas, Zrat Hashem, à rencontrer vos enfants pour essayer de régler des problèmes qui auraient pu être faits à l'avant. Donc c'est marqué ici dans la Gemara, dans Kiddushin. C'est une Gemara très courte. Vous allez voir, on va prendre quelques lignes. J'ai amené le texte pour ceux qui veulent suivre un peu dans les mots. Juste pour montrer combien est-ce que on peut mettre en quelques mots, on peut mettre beaucoup d'enseignements. Pour vous dire, quand j'avais fait ce cours à Montréal, il y avait un professeur de pédopsychiatrie, de McGill, il est venu me voir. Il m'a dit, c'est incroyable, parce qu'il m'a dit, le domaine que vous avez développé pendant 2 heures, c'est mon sujet. C'est la pédopsychiatrie. Il m'a dit, ce que vous avez dit en 2 heures, je l'ai dit en 4 ans à la fac. Alors je lui ai dit, mais moi, je n'ai aucun mérite de ça. Je vous ai dit ce qui est écrit dans la Gemara. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la Gemara, il y a 4 lignes. Donc ça fait 4 lignes, 4 ans. D'accord, vous avez compris maintenant que c'est vraiment du MP33. Voilà. Donc ici, c'est marqué une chose incroyable. Quand la Gemara, la Torah, elle parle du kibbud avaim, elle parle du respect qui est dû aux parents, et en même temps, de manière un peu inversée, elle parle aussi de l'éducation qu'on doit donner aux enfants. Parce que l'un existe par rapport à l'autre. C'est un peu la logique des montants compensatoires, ouais. Parce qu'en fin de compte, il y a un partenariat. Toute la vie, c'est une série de partenariats. Toute notre vie, on va rencontrer des gens où on va être mashpia et mouchpa. On va être quelqu'un qui va influencer et on va être influencé. Un homme marié qui est équilibré, il sait qu'il va être le professeur de sa femme. Mais il va être aussi l'élève. La femme, elle sait qu'elle va être aussi l'élève, elle va être aussi professeur. Après, c'est une question, est-ce qu'on est bons élèves et bons professeurs? Parce que ce n'est pas les mêmes qualités pour être professeur et pour être élève. Un rav, toute sa vie, il enseigne. Mais toute sa vie, il apprend. Maintenant, c'est marqué, mitalmidai, yoter mirabotai. J'ai appris plus de mes élèves que de mes maîtres. Parce que l'enseignement, il t'oblige à comprendre. Mais l'élève, il t'oblige à être sûr que tu as compris. Ce n'est pas la même chose. On peut être très, très, très intelligent et complètement inadapté. Il y a des gens qui ont des chaires de pédagogie et qui enferment leurs enfants dans la chambre pour les punir, ou dans un placard. J'ai connu ça, ouais. Vraiment une vraie chaire de pédagogie dans une faculté en France. Et c'est la fille qui me le raconte. Donc tu vois que la théorie et la pratique, c'est pas... Et à part ça, le fait que les enfants ont un défaut majeur, c'est que plus ils grandissent, plus ils nous ressemblent. Ce qui est insupportable, ouais. Parce que c'est une espèce de miroir vivant. Donc celui qui veut connaître son passé... Il regarde ses parents. Celui qui veut connaître son avenir, il regarde ses enfants. Celui qui veut connaître son présent, il regarde son conjoint. Parce qu'il n'y a personne qui est au monde qui te connaît mieux que la personne que tu as épousée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est un miroir. Alors après, est-ce qu'on est d'accord de se regarder dans le miroir? Il y a des gens que ça dérange. Il y en a au contraire. Ils disent, mais grâce à Dieu, on a des miroirs. On peut voir quand il y a une tâche, quand il y a un problème, quand il y a une erreur. Au contraire, quand il y a une qualité, c'est extraordinaire. Donc cette logique-là du miroir, c'est la logique du partenariat. Mais là, la chokhma, c'est que le miroir, il est vivant. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que tu vois en temps réel ce que tu provoques. Tu peux même voir par anticipation ce que tu vas provoquer. Par exemple, la dernière fois, quand on avait parlé du couple, je vous ai expliqué qu'il y a des lois très très précises pour comment est-ce qu'on doit concevoir un enfant. À quoi on pense, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce qui est gênant, qu'est-ce qui est honteux, qu'est-ce qui est dégoûtant, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout ce qu'on doit faire, toutes les obligations qu'on a. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait, en fait, que l'inné de l'enfant, il est répercuté par les conditions dans lesquelles il a été conçu. C'est pas par hasard, s'il y a tellement de tzadikim, ouais, ils n'ont pas été conçus à l'arrière d'un break un samedi soir, après une soirée arrosée. Oui, il y a de la kedusha, il y a de la pureté, il y a de la finesse, il y a de l'intelligence. Or ça, c'est quoi? C'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, elle contient son essence. Et c'est écrit dans le Ramban que la semence, elle n'est produite que par la pensée. Donc la pensée, elle s'inscrit dans la semence, elle est véhiculée chez quelqu'un d'autre, et là-bas, elle s'épanouit. Maintenant, le réceptacle qui s'appelle la femme, il est aussi important que celui qui donne, le générateur. La Gemara dit l'homme, c'est le planteur, et la femme, c'est le champ. Maintenant, si le champ, il est coincé, stressé, angoissé, mal à l'aise, comment il va s'épanouir la graine? Donc un homme, il doit avoir intérêt à ce que sa femme soit heureuse pour que l'enfant soit intelligent. C'est marqué, ouais, que si la femme est désireuse d'accueillir son mari en elle, l'enfant sera intelligent, et si la femme n'est pas désireuse, l'enfant sera bête. Donc le type, pour assumer un petit plaisir nécessaire de 10 minutes, il va se taper un brel pendant 30 ans à table. Donc il a bien fait de l'appeler Jacques, comme ça, c'est cohérent. D'accord, mais c'est quoi l'idée? Donc c'est quoi l'idée? Un Jacques Brel est très connu. Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? On parle déjà au niveau de l'inné. C'est pareil, c'est-à-dire que tout le travail que tu fais en anticipation, comment tu rends ton mari, tu lui donnes sa place d'homme. Donc quand tu lui donnes sa place d'homme, ben, tu lui donnes sa place de père. Mais si tu le fracasses, tu le casses, une femme elle m'a dit, mon mari, je l'ai rendu une serpillière. Je dis, écoutez madame, c'est normal, vous êtes raide comme un balai, ça fait un couple. D'accord. Mais l'idée c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu travailles pour l'épanouissement de ton mari, tu travailles pour l'épanouissement de ta femme, bah tu travailles aussi pour l'épanouissement des parents, aussi des grands-parents. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une logique de partenariat. Comme dans n'importe quelle logique. Il y a un employé, des patrons. Un type qui a un bon employé, qui lui rapporte 90% de son chiffre d'affaires, il n'a pas honte de lui donner qu'un salaire. Il lui donne une prime. Bah alors une prime, ça va. Des primes, c'est pas bien, d'accord, parce que ça angoisse. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend qu'il y a un aller-retour. Nous, on réfléchit à combien nos enfants nous doivent. Mais un jour, on va réfléchir à combien on doit à nos enfants. Vous voyez, un homme, il devient un homme grâce à sa femme. C'est connu. Oui, c'est un gamin. C'est un joueur de PlayStation. Comment il est devenu un homme? Parce que sa femme, elle a besoin qu'il assume. Elle a besoin d'être assurée. C'est marqué « Ve'uim sholba ». C'est marqué « Lui, la dominera ». Alors, les musulmans, ils ont compris que l'homme, il doit frapper sa femme jusqu'à ce qu'elle dise « Je t'aime ». Ouais. Bon, il y a des musulmans dans la population juive, attention. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un, et la Torah, elle veut dire non, Ve'uim sholba, c'est pas que l'homme il va dominer la femme, c'est que la femme, elle a besoin d'être sécurisée. Elle sent qu'elle a un homme à côté d'elle, pas une espèce de papillon ou une vapeur d'eau, ouais. Un homme, d'accord. Donc l'homme, il devient homme parce que sa femme attend de lui qu'il soit un homme. La femme, comment elle devient femme? Comment une fille qui passait 8h30 à choisir son parfum, qui collectionnait les photos de Elton John, elle est devenue une femme, qui assure une maison, qui prépare le Shabbat, qui gère 3 enfants, l'orthophoniste, le cours du mardi. Comment elle gère tout ça? Comment elle est devenue une femme? Parce que son mari l'attend. Il attend d'elle. Donc l'attente de la femme, l'attente de l'homme, elle fait de la femme une femme. L'attente de la femme, elle fait de l'homme un homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, et c'est par amour en plus, c'est extraordinaire. Sans pression, sans rien. Simplement parce que tu sens que ça fait plaisir à l'autre. Donc ça veut dire que qu'est-ce que l'autre te demande en fin de compte? Et c'est ça qui est incroyable dans le Shalom Bayit. Ce matin, j'ai passé 3 heures avec un couple, deux personnes extraordinaires, mais les deux ensemble, du Shahatnez. Incroyable. Bon, Hachem, ça s'est bien terminé, mais bon, c'était eux, c'est que c'était 6 ans de gaspillage. Il y en a qui ont 15 ans de gaspillage, 20 ans de gaspillage, des erreurs. De quoi? Qu'en fin de compte, souvent, les couples, c'est une série de rendez-vous manqués. Les gens, ils se croisent. Quand l'autre, il est prêt, elle, ça ne l'intéresse pas. Quand elle ouvre les yeux, lui, il est fatigué. Quand elle fait un effort, elle dit « je t'ai rien demandé ». Après, elle dit « bon, j'ai compris ce qui n'allait pas. L'autre, il faut que tu payes pour ce que tu m'as fait subir. » Ils se croisent. Quand est-ce qu'on va travailler? D'accord? C'est la rencontre. C'est pareil. La vie, c'est des partenariats. Maintenant, le timing du partenariat, c'est le bon Dieu qui le fait. Si toi, tu es intelligent, tu dis « bon, c'est le bon timing, il faut y aller ». Alors nous, on a un principe qui s'appelle la Emouna. Vous avez entendu parler de ça, oui? La Emouna, c'est quoi la Emouna? Les gens croient la Emouna. Non, la Emouna, c'est pas simplement de mettre les téfilines le matin, de manger cachère, en fin de compte, d'être religieux. C'est évident, on parle des juges, pas des goïms. Donc c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que toute la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Mais à la seconde près. C'est exactement la femme qu'il te faut, le mari qu'il te faut, les enfants qu'il te faut, maintenant. Pas tout à l'heure, pas demain. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils tardent. Ils se marient après, ouais, c'est pas ça, de toute façon, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais. Un an après, ou alors 2 ans après, ou 10 ans après, en fin de compte, c'était exactement ce qu'il me fallait. Parce que c'est 3 étapes dans la vie. Première étape, tu dors. Deuxième étape, tu te réveilles et tu te révoltes. Troisième étape, tu comprends que c'était nécessaire. Le problème, c'est le temps qui est passé pendant ce temps-là. Que ce soit un bonheur ou un malheur. Oui. Donc celui qui est intelligent, il ne fait pas le cycle entier. Il dit, puisque le cycle, il va revenir au point de départ, donc je vais démarrer du point de départ. On sait que ça a l'air idiot, mais les gens, ils se parlent, ils se comprennent pas. Ils s'engueulent, ils souffrent, ils s'en veulent. Alors, ils ont de la rancune, de la haine, de la souffrance, de la vengeance, de la réconciliation, de l'amour, et je t'aime. Tu veux pas commencer par la fin? De toute façon, tu vas pas divorcer. Alors, commence par la fin. C'est exactement comme le chametz. Vous savez que le chametz, c'est très bizarre, le chametz. Le chametz, pendant Pessah, il est interdit, même une miette. Vous mettez une bienne de chametz dans 500 kg d'haricots verts, c'est assourd. Il s'annule pas. Il s'annule pas. Vous savez ça. Afilou Bélève, le battel. Le chametz, même dans 1000 fois, il s'annule pas. Après Pessah, un chametz que vous avez gardé à la maison, pendant Pessah, toute la fin, jusqu'à la fin de votre vie, il est interdit. On peut pas ni le vendre, ni le donner, rien, on peut rien faire avec. Ouais. Il est assourd, les olam. Mais le chametz, avant Pessah, il s'annule dans 60. Tu mets 60 fois le volume de, d'autre chose. Le chametz, il est permis. Tu dis, mais c'est normal, c'est pas Pessah. C'est comme ça. Vous me suivez ou non? J'ai du chametz dans un plat. S'il est annulé dans 60 fois plus, il s'est caché à le Pessah. Je peux le manger pendant Pessah. Si je l'ai annulé avant Pessah. Donc le chametz, il s'annule avant Pessah. D'accord? Il est interdit, même une miette pendant Pessah. Et si je l'ai gardé pendant Pessah, il est assuré pour toujours. C'est bon? La semaine dernière, j'étais de Tel Aviv à Netivot, en voiture, pour aller faire un cours. Et j'ai pensé à un chidouche. Alors je vous en ferai profiter. Au pire, il est vrai, qu'est-ce qu'on risque? D'accord? J'ai dit, le chamet, c'est quoi? C'est l'yetzirara, c'est la bêtise, c'est la méchanceté, c'est la lourdeur, c'est la gava. Il y a beaucoup de choses dans le chamet. Maintenant, je dis, j'ai un problème, par exemple, n'importe quoi, de couple, avec un parent, avec un enfant, n'importe quoi. J'ai un problème. Maintenant, ce problème, c'est du chamet. Maintenant, c'est la personne, elle est en face de moi, c'est ma femme, c'est mon mari. Je dis, bon, j'ai pas encore parlé, j'ai encore rien dit, j'ai pas encore déclaré le problème, mais il y a un truc qui m'énerve. Il arrive en retard, il est énervé. Il y a un truc qui m'énerve, c'est du chamet. Alors, avant d'ouvrir la bouche, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas encore parlé. Je peux annuler le chametz dans 60%, 60 fois plus. Je peux dire, bon, écoute, elle est gentille, elle est sympathique, elle est affectueuse, elle est tendre, elle investit. Je suis embêté maintenant parce qu'elle arrive en retard. Ouais. Ouais, mon mari, il est serviable, il investit, il est religieux, il est bien, il est équilibré. Bon, d'accord, il s'est pas lavé les dents. Alors, ça va. Donc, je peux annuler le chametz avant Pessah. Avant Pessah. Pourquoi Pessah? Parce que Pessah, en hébreu, c'est Pessah, la bouche qui parle. Tant que tu n'as pas parlé, tant que tu n'as pas déclaré le problème et qu'il est juste dans ta tête, annule-le. Annule-le dans 60. Il y a des gens, non, tu sais, c'est par esprit de perfectionnisme, c'est juste pour régler le problème, c'est parce que je veux t'améliorer. Genre, je vais te tuer, mais pour ton bonheur. Il y a des gens comme ça, oui. Ça s'appelle les perfectionnistes. C'est quoi un perfectionniste? C'est quelqu'un que là où il regarde, c'est imparfait. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux. Tu peux aussi te la fermer. Oui, ça peut être mieux. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Maintenant, tu as parlé. Ah, tu as parlé! Tu as dit le problème. Tu as dit. Ouais, avec une bonne intention, avec du tact et de la manière et tout. Mais maintenant, le Hamed s'est déclaré. On est fait ça. Voilà. Donc, il y a une espèce de malaise. Il y a alors l'autre tout fier de lui ou d'elle que j'aurais la raison. Et l'autre qui est en train de mourir, qui je me suis marié pour souffrir. D'accord? C'est une autre manière de voir Pessah. Donc. Le chametz, il est là. Ça, c'est le chametz pendant Pessah. Le chametz pendant Pessah, tu ne peux pas l'annuler maintenant. Tu ne peux que le brûler. Donc, quand on a un problème entre nous, il y a trois solutions. Soit on règle le problème, soit on fixe une date pour le régler, soit on le brûle, on l'élimine. Tu n'y a pas de problème. Ça va? On a un problème maintenant. Maintenant, écoute, il y a un truc qui ne va pas là. Là, je ne peux plus. Chaque fois que tu es avec tes copains, tu me chambres devant tout le monde, tu trouves ça marrant, moi j'ai envie de mourir. Alors, on pose le problème, on règle le problème. Alors, ou alors, tu dis, c'est pas le moment. Tu vois, il y a encore du monde et tout. Tu dis, bon, dans ta tête, tu dis, bon, demain à midi, on parle. Tu dis, voilà, demain à midi. Mais de quoi? Non, demain à midi, on parle. Non, t'es bien, fais ton kiff, mais demain, on parle. Quelque chose de sérieux. Tu fixes une date. Donc, moi, je peux tenir jusqu'à demain midi parce que c'est fixé. Toi, tu m'aimes, tu peux attendre demain midi. Sinon, si on n'a même pas un jour, comment rester 20 ans si on n'a pas un jour de crédit, d'accord? Donc, numéro 1, on fixe le problème. Numéro 2, on fixe une date pour régler le problème. Numéro 3, on veut pas. Alors, on élimine. Mais là, des gens malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent. Ils disent rien. Genre pour le shalom, mais ils gardent. Et un jour, ils te sortent trois couloirs de dossiers. Tu dis, maintenant, c'est pas possible. Oui, tu m'as fait ça, et tu m'as fait ça, et tu m'as mal parlé devant ta mère, et tu m'as claqué la porte le jour du fiançailles. Et tu dis, mais attends, mais ça fait 28 ans. Tu sais, aujourd'hui, avec le numérique, on peut tout conserver pendant des années. D'accord? Et toi, tu comprends pas, tu te dis, mais attends, mais c'est un vieux truc. En plus, comme si tu étais dans le contexte, tu pourrais régler l'histoire, mais tu as oublié maintenant les détails pour lui dire, mais attends, mais j'ai la gueule, mais c'est le jour où j'ai perdu 1 million d'euros. Ouais, d'accord, moi j'étais énervé. Mais j'ai oublié moi, alors je comprends pas. Donc elle a gardé, qu'il a fait la gueule, oublié. Et c'est ça le contexte. Parce que tu enlèves le texte, il reste le... D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fin de compte, elle est malhonnête. Donc je te dis, ou tu poses le problème et tu règles le problème, ou tu élimines le problème. Donc le chametz, t'as un problème, tu l'as déjà posé, ou tu le règles. Donc pendant Pessah, tu le gardes. Et tu dis, en même temps, on ne peut pas brûler le chametz. On le couvre et après on le brûle. Ou alors tu le brûles carrément et c'est fini. Tu veux pas. Maintenant, tu as gardé le chametz. Le chametz, c'est avoir à la Pessah. Un chametz qui est resté après qu'on a ouvert la bouche, Pessah, il est assourlé à Olam. Tu crois qu'on t'a pardonné, tu crois 10 ans après, 20 ans après, il reste. C'est dans le cœur. Quelque chose qui a fait mal. Pense à une erreur de jeunesse. Oui. Donc le mieux, c'est d'avoir un couple caché à les Pessah. Pas de chametz. D'accord, oui ou non? Alors c'est exactement pareil, l'enfant. L'enfant, tu crois, tu dis, mais je suis gentil avec lui, je lui paye son école, je lui paye les cours particuliers, je supporte les redoublements, tout ça. Eh ben, c'est bien, grâce à Dieu. Ça va, quelle idée il a de son père? Quelle idée a de sa mère? Moi, j'ai toujours, le jour où tu vas demander à ton fils de dire qu'est-ce qu'il pense de toi, mets un gilet pare-balles, quand même. Parce que l'enfant, il a une caméra avec un capteur sélectif. Le mal, il absorbe tout de suite. Le bien, il met des années. C'est-à-dire, tu lui as tout payé. Le jour où tu lui dis, tu sors pas ce soir, tu dis, tu m'as jamais aimé. Tu comprends pas? T'as 20 ans. Ça fait combien de soirs? Je t'ai aimé 20 ans. Sur les 20 ans, un soir, je t'ai contredit. Ça y est, au fond, tu m'as jamais aimé. De toute façon, tu m'as toujours comparé avec mon frère, ou ma sœur. Tu dis, mais oui, il est parti, celui-là. Donc, c'est pour ça. Et c'est un peu la difficulté avec les enfants. C'est qu'en fait, on travaille un peu en aveugle. On programme, on installe les logiciels. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec l'ordinateur. Il y a des enfants extrêmement intelligents qui vont s'en servir pour faire une belle déprime. Il y a des enfants idiots, mais une telle confiance en eux, ils vont déchirer le marché. Celui que tu croyais, ça y est, c'est réglé, c'est tranquille, il a trouvé les bons rails, il déraille. Celui-là qui était comme ça, Tralouette, tu dis, je comprends rien ce qu'il veut, de toute façon, j'ai laissé tomber. Il te sort une fusée. Oh, je suis va, tu dis. Franchement, je le voyais barman à Miami, tu vois. Et là, il est en train de faire la dracha, tu dis, est-ce le même? D'accord, c'est pas possible. Bon. Et les barman, pas dans n'importe quel bar. Il y a un peu le genre de bar où j'ai jamais été. Donc c'est quoi l'idée? Non, mais je dis Miami parce que quelqu'un, justement, qui était barman à Miami, et quand j'ai vu la touche, j'ai vu un peu le genre de bar. C'est des bars où le barman s'appelle Joe, en général. C'est pour les bars Joe. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. C'est la semaine. Non, parce que les gens, pour faire plaisir, des fois, ils dorment avec les yeux ouverts. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, on a dit, la vie c'est un partenariat. Alors il y a des partenariats courts, il y a des partenariats longs. Par exemple, un prof, normalement, tu l'as pendant un an. Si tu l'as pendant 2-3 ans, c'est que tu redoubles, d'accord? Tes parents, tu les as pendant 20, 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, c'est même plus, d'accord? Parce que les enfants, il faut les accompagner, puisqu'ils font la crise d'adolescence à 28. Donc imagine à quel âge ils vont être adultes. C'est un peu compliqué. Bon, mais ça c'est la PlayStation, c'est-à-dire que ça recule la maturité. Un enfant qui a eu 20 ans entre 39 et 45, il peut pas avoir la même maturité qu'un enfant qui avait été dans un cocon. Puisque le cocon, c'est une alternative. Ou ça rend l'enfant co, ou ça rend l'enfant... Bon, d'accord. C'est logique. Ouais. Quand un monsieur est venu chez moi, il m'a dit, monsieur le rabbin, je ne comprends pas. Je dis, c'est quoi votre problème? Il dit, la Torah a la réponse à tout. Je sais pas, je connais pas votre question. Il m'a dit, voilà, moi, j'étais en Tunisie. D'accord? Je suis parti de Tunisie, je suis arrivé en France, en 54. Avec mes 8 sœurs, ma mère et mon regretté père qui nous a quittés et ma grand-mère. Et c'était moi qui étais seul. Et j'avais 14 ans, j'étais soutien de famille, j'ai bossé comme un fou, j'ai travaillé. Et mes enfants, mes sœurs, elles ont fait les études. Ma mère, je me suis occupé jusqu'à la fin. Et moi, j'ai créé une boîte de frites. Ils vendaient des frites au sentier comme ça. Il a mis une petite boîte de frites, ils vendaient des frites. Après, il a mis un deuxième. Il a mis Mohamed là-bas, il a mis le truc là-bas. Après, il a créé une chaîne de magasins de frites qui s'appelle Afrit. Ouais, je sais pas si vous connaissez. D'accord. Et j'ai développé, j'ai gagné des millions d'euros. Je me suis marié, moi, le dernier, après que j'ai marié toutes les sœurs, j'ai eu un enfant. Ma femme, après, elle a fait une hémorragie, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et cet enfant, il est d'une nullité. Il m'a dit, c'est un cas d'école. On devrait le mettre au musée de Jacques Brel, justement. Il dit tellement, c'est pas possible, comment il est immature, comment c'est un gamin, comment il est bête, comment il comprend rien. Je comprends pas. Il me dit, comment moi, que j'ai soutenu toute ma famille tout seul, j'ai créé cette boîte toute seule, et moi je me trouve avec un gosse pareil. Alors je lui ai dit, écoutez, monsieur, Vous voulez la vérité ou vous voulez du baratin? Il m'a dit, je veux la vérité. Je dis, la vérité, c'est que votre fils n'a pas eu votre chance. Il m'a dit, quelle chance j'ai eu? Je dis, ben, de perdre votre père. Il me dit, quoi, vous souhaitez à mon fils qu'il perde son père? C'est limite un homicide, d'accord? Je dis, ben oui, parce que vous, quand vous avez perdu votre père, vous avez été obligé d'assumer, donc vous êtes obligé de devenir un homme. Mais lui, comme il savait qu'il pouvait compter sur vous, donc il n'a pas eu besoin de grandir. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, un homme ne devient un père. Enfin, quand est-ce qu'un père devient un père? C'est le jour où il accepte que son fils est devenu un homme. D'accord? C'est pas évident. Parce qu'encore une fois, l'enfant, plus il te montre que tu es un homme, qu'il est un homme, plus il te montre que toi, tu vieillis. Donc il faut accepter la troisième étape. Première étape, tu es un gamin. Deuxième étape, tu es un homme. Troisième étape, bah, c'est la dernière ligne droite. C'est pas grave, puisque tu as fait ce que tu avais à faire. On n'a pas dit qu'elle va durer 10 minutes. Elle peut durer longtemps. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est de se dire, j'arrive à la fin et je suis content de ce que j'ai fait. Tu sais, les gens, ils ont peur de la mort. La mort, Hazé Shalom, Simsilénou, Loralénou. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de la mort. Moi, je crois que les gens qui ont peur de la mort, c'est les gens qui savent qu'ils n'ont pas vécu. Mais celui qui a vécu, qui a fait ce qu'il avait à faire. C'est comme si tu étais une compta propre, avec un inspecteur des impôts contre ce filtre. Qu'est-ce qu'il veut qu'il vienne? Mais celui qui a peur, c'est qu'il sait qu'il est dans les embrouilles. Donc maintenant, il y a une grande embrouille qui s'appelle la mauvaise exploitation de la vie. Quand tu as fait ce qu'il fallait, ta femme est épanouie, tes enfants ils sont équilibrés, tu as payé tes dettes, tu as toujours dit la vérité. Bon, on vient te chercher. On vient te chercher. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, demain, dans 10 ans? Ah, Hazé Shalom, Simsilénou, Barminan. En vérité, dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Non, je sais que les gens ils disent ils ont peur. J'ai peur de la mort, parce qu'ils voient Benamou, les bougies, les Teilim. Non, mais. C'est comme la vie. Moi, mon père, Zichron Ibracha, il m'avait appris ça. Il m'a dit. Lui, il était dans la Chevra Kadisha quand il avait 14 ans. Il m'a dit, mon fils, la vie et la mort, c'est la même chose. Et moi, je ne comprenais pas, j'étais nia. Moi, je croyais, genre, j'étais un philosophe. Mon père, c'est un tailleur, mais il était plus philosophe que moi. Parce qu'il ne lui parlait pas. Moi, je parlais, mais le temps que je passais à parler, je ne réfléchissais pas. Donc, c'est quoi l'idée? Il m'a dit, il ne faut pas avoir peur. C'est un passage. Et moi, je ne comprenais pas. En réalité, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des gens, au moment de mourir, ils se mettent à crier, maman, 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 maman. Pourquoi il appelle sa mère? Qu'elle appelait son prof de maths. Pourquoi sa mère? Parce qu'en fait, il voudrait retourner dans le ventre de sa mère pour refaire l'histoire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Mais celui qui a fait ce qu'il avait à faire, il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi le problème? Ben c'est ce que tu attendais. Il dit, le Rav Arachaz, il dit, un homme toute sa vie prépare le jour de sa mort. C'est quoi le jour de la mort? C'est pas le jour de la mort comme on croit à nous. La mort. Non, la mort, c'est le moment où tu as rendez-vous avec l'objectivité. Nous, le bon Dieu, il dit, nous, qu'est-ce que ça fait? Comme toi, ton patron, il te donne 20 000 euros. D'accord. Il dit, qu'est-ce que ça fait? Tu dis, écoute, en ce moment, j'ai pas le moral. Mais je m'en fous de ton moral. Moi, je te demande, qu'est-ce que ça fait? Les chiffres. Voilà. 8 000 contacts, 14 000 contrats, 16 millions de chiffres d'affaires, c'est bien. Ah bah tiens, t'es 20 000 euros, un kiff, c'est normal. Donc, c'est. Ah maintenant, si toi, t'as peur de ce rendez-vous, et la preuve toi-même, tu dis, c'est la mort pour moi, ça m'a tué, c'est les gens, tu dis, tu sais, tu m'as dit la vérité, ça m'a tué. La vérité qui tue. Mais c'est quoi la vérité? C'est le rendez-vous avec la maturité. Donc, si t'as fait ce qu'il fallait, t'as pas peur d'avoir rendez-vous. Si t'as pas fait, eh ben t'as raison d'avoir peur. Donc la peur de la mort, c'est la peur du rendez-vous avec la dimension la plus objective qui existe dans l'univers, qui s'appelle le bon Dieu. Non, si tu as fait ce que tu avais à faire. Au contraire, vas-y. Mais cette logique. Ben, c'est exactement pareil. Tes enfants, c'est une facette d'Hachem. Tu as rendez-vous avec eux. Toi, à la naissance, tu as dit, mes enfants, ils vont être sadiques, équilibrés et intelligents, autonomes, à la roupa. Tu adores ça, c'est ça ton objectif. Sadique. Mais religieux, pas religieux, ça change rien. Il faut que les enfants ils soient des sadikim. Tu dis, oh, vous savez, on n'est pas dans la religion, on est très assimilés, même debout midé, ça change rien, quel rapport. Sadique, ça veut dire qu'il est cohérent. Ouais, il est cohérent. C'est ça, sadique, c'est tzedek. Tzedek, c'est la justice. Le symbole, c'est la justice, c'est une balance. Pourquoi? Parce que tout le monde se balance de la justice? Non. Parce que c'est un équilibre. Ouais, il y a l'alakha, il y a toi. Il y a ton identité juive et ton comportement. Il y a ta kippa. Et tes trucs. Il y a ton alliance et la femme qui est à côté de toi. Je comprends pas, la femme qui est à côté de toi, c'est pas ta femme. Tu as une alliance, t'es pas cohérent. T'es pas tzadik. Tzadik, c'est tzedek. Tzedek, c'est cohérent. Donc ton enfant, il doit être cohérent. Alors, si un psychopathe qui a une barbe et un chapeau et qui voit des films porno, il est pas tzadik. Ouais, il a pas la kippa et tout ça, mais il s'occupe des gens toute sa journée, toute la journée. J'étais dans un taxi à Tel Aviv. Le mec, il avait pas de kippa ni rien. Il m'a dit, toi aussi, je lui mange, je donne quelques cours, tout ça. Il m'a dit, Hazak, il me dit, attendez, un gamin, il aussi mitzvah. Moi aussi, je fais une mitzvah. Je dis, ah bon, quelle mitzvah? Il m'a dit, j'ai allé voir les copains du marché, ils donnent de la marchandise pour des pauvres. Bon. Et puis après, j'ai été voir d'autres personnes. Après, avec ma femme, on les a mis à la maison. Après, je lui dis, alors comment ça se passe? Il me dit, maintenant, grâce à Dieu, on soutient 140 familles. Le mec, tu le vois comme ça. Taxi, hein, pas de kippa. Hein. 140 familles. 140 familles. C'est comme si toi, tu dis, tiens, je vais en prendre 139. Comment 139? Tu dis, il faut une organisation, il faut une commission, il faut des délégués, il faut des locaux, il faut 7 millions d'euros. Non, rien, rien. Mec, il a rien, il a un taxi, il a des copains, il a sympathisé avec les gens du marché, il leur dit, fais une mise, va, donne, il fait un truc. Et les mecs, ils font, sans rien, sans papier, sans serfa, sans trailouette, sans rien. Ni FSJU, ni ASUBHBILU, ni HADADUDU, ni mérite national de la Kassir Baba, ni une plaque avec marqué Hazaku Baruch, le mec, il a donné 10 000, la plaque, elle coûte 12 000. Je lui dis, bon, ils vont même la réutiliser comme pierre tombale parce qu'il a plus d'argent, mais qu'est-ce que. Ouais. Si Gilad, c'est Daka qui l'a fait. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que qui sont les grandes personnes, qui sont les petites personnes, c'est quelque chose de très difficile. Et en vérité, dans l'absolu, on travaille en aveugle. Alors après, le plus exemplaire de ça, c'est l'enfant. Parce qu'en vérité, l'enfant, c'est pas comme un adulte. Un adulte, tu parles avec lui, il change de tête, il truc, il répond, il parle. L'enfant, il dit rien. Il dit rien. Donc pendant 20 ans, au fond, tu travailles en aveugle. Parce que la Gemara, elle dit « Chanor anar alpidarko » éduque l'enfant selon son chemin. Donc nous, on dit, ça veut dire que chaque enfant, il est différent. D'ailleurs, c'est le point, moi, grâce à Dieu, j'ai une équipe de foot, plus les remplaçants. Mais j'ai vu que le seul point commun qui existe entre mes enfants, c'est qu'ils sont tous différents. Mais des fois, c'est choquant. T'as un hypersensible, t'as une tête dure, t'as un super khfif, t'as un allah, t'as un type qui réfléchit tout le temps, t'as un type qui réfléchit jamais, tu dis, attends, mais... Tu dis, au moins, je sais qu'ils viennent de la même source, ils devraient être pareils. C'est ça que la différence entre l'éducation et l'élevage. D'accord? C'est pas parce que t'as épousé une poule que t'auras des poussins. C'est pas grave, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, en fin de compte, Chanor Hanar Alpidarko, ça veut dire que je dois m'occuper de chaque enfant différemment. C'est un mode de projection et un mode d'investissement qui est différent. Et c'est très bizarre, parce que l'autre, tu cries sur le qui est lourd. Mais celui qui est sensible, il se met à pleurer. Tu dis, mais je parle pas à toi, il faut que tu gères. Oui, tu peux pas avoir le même comportement. Et en plus, c'est évolutif. Parce que même le petit, les grands, ils te disent, ouais, papa, t'es vachement cool avec les petits. Tu dis, mon fils, c'est normal, il n'y a pas une école des parents, j'ai appris sur le tas. Il te dit, c'est qui le tas? Et d'un autre côté, c'est difficile, puisque l'enfant, d'où est-ce qu'il vient? Un bota, il vient de nous. Ça s'appelle la génétique. Enfin, je peux entendre la génétique. C'est très vicieux, la génétique. Puisque l'enfant, c'est nous, il vient de nous. Donc il vient avec nos plus, il vient avec nos moins. Donc il y a une très très grande frustration chez les parents, c'est que tu ne peux pas dire à ton fils, espèce de hmar, mais d'où est-ce que tu sors? C'est une grande souffrance. Parce que l'enfant, il te regarde, il te dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est connu, c'est un grand professeur de botanique, le professeur Wallow, si tu l'avais connu. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit des choses importantes. Il a dit, les pommiers font des poires, les poiriers font des poires, les poiriers font des poires, les pommiers font des pommes, les fraisiers font des fraises, et les hmariers, ils font des hmars. Donc tu peux même pas te plaindre. Avant, on pouvait dire, mon fils, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Avant. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que la génétique, c'est minimum 50-50. Il y en a même qui sont 70 puisqu'il y a 20% de la belle-mère qui sont inévitables. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de se dire, j'ai en face de moi quelqu'un dont le défaut majeur est de me ressembler. Donc il a mes qualités, il a mes défauts. Il y a un rave. Il a dit une définition qui est incroyable. Elle est très puissante, mais elle est incroyable. Il a dit, il faudrait aimer ses enfants pour leur apprendre à haïr les défauts dont on les a fait hériter. Est-ce que tu aimes assez tes enfants pour leur apprendre à haïr une partie de toi? C'est les défauts que tu leur as fait hériter. Bon, il faut dire que c'est un Ashkenaz, donc c'est un dur à comprendre. Mais c'est quoi l'idée? C'est quelque chose de violent. Genre, tu veux que l'enfant il soit tellement autonome qu'il sache reconnaître le bien qu'il a eu de toi, mais aussi se préserver du mal. T'as un mauvais caractère, t'es têtu, t'es truc, bon. Bon, il y a une autre école de pensée, c'est qu'en vérité, les parents, même s'ils n'étaient pas compétents, même s'ils n'étaient pas 100%, même s'ils n'étaient pas équilibrés, mais ils l'ont quand même fait par amour. Donc le maximum qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir été maladroit. Parce qu'il y a des gens, ils rentrent en procès contre leurs parents. J'ai vu des gens, moi j'ai rencontré des milliers de personnes. Il me dit, vous savez, Rav Metchetrit, pendant des années, il a fallu que je me remette des traumatismes qui ont été créés par mes parents, qui ont été complètement incompétents. Mon psy m'a expliqué. J'ai dit, mais combien de temps il vous a expliqué? 15 ans. Ah, une piscine. Il m'a dit, quoi? Oui, j'ai le temps que vous lui payez une piscine. Alors, il m'a dit, alors, eh ben, j'ai tout écrit et je vais sortir un livre. Attendez, là, vous allez écrire un livre? Sur quoi? Sur la souffrance que mes parents m'ont fait. Je dis, attendez, ça vous a fait du bien? Oui, c'est de l'écrire, ça m'a fait du bien. Parce qu'il a réussi à se détacher du problème, à extérioriser son malaise, et donc il peut le gérer à distance comme si c'était pas le sien. Je dis, mais quel intérêt de publier maintenant? C'est comme si tu vas aux toilettes, tu gardes le résultat, tu dis, je vais faire comprendre aux gens l'importance de la digestion. Tu dis, non. Bah, t'es un petit peu pudique. Ouais. Alors je dis, pourquoi vous faites ça? Mais vos parents, ils vont se pendre le jour où le livre va sortir. En plus, vous voulez sortir en son nom. Je dis, vous avez fait le livre, c'est bien. Oui, vous avez vomi, c'est bien. Mais il me dit, oui, mais ça peut aider d'autres personnes. Mais les autres personnes, ça ne va pas les aider, puisque eux, ils doivent vomir leur vomi à eux. Je ne peux pas prendre vomi de ton vomir à toi. Genre, toi, t'as mal au ventre et moi, je vomis. Je dis, ouf, ça fait du bien. C'est impossible. Mais les gens, ils croient à ça. Bon, c'est ça, c'est une logique aussi, de dire que, bon, il faut travailler, il faut le truc. Non, c'est vrai, il faut extérioriser et tout, il ne faut pas souffrir. Mais peut-être qu'il faut cachériser. Cachériser, de dire, en fin de compte, par exemple, ton père était têtu. Donc, c'est un défaut. D'accord. Mais ce défaut-là, c'est une qualité, ça s'appelle la détermination. Donc, tu n'as qu'à prendre le côté têtu pour en faire de la détermination. Donc, génétiquement, tu as absorbé ça dans ton patrimoine génétique, ce côté têtu. Mais tu peux prendre le côté têtu et en faire de la détermination. Tu as un côté hypersensible. Tu n'es pas obligé d'être homo. Tu peux être créateur. Tu dis, non, mais je suis hypersensible, je veux être une fille. Non, tu n'es pas... Tu n'es pas une fille. Non, laisse ton pantalon debout. On le sait, ouais. Mais tu peux... Alors que l'autre, il dit, non, si je suis hypersensible, c'est parce que mon père m'a cassé, il m'a castré, et ma mère m'a trop donné d'amour, et donc je dois être homo. J'ai des gens comme ça au téléphone, je dis, non, t'es pas homo. Ils veulent absolument prendre cette lessive, alors qu'il y en a tellement d'autres. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que on a des partenariats. Ces partenariats, ils sont révélateurs. Et en plus, j'ai dit, c'est un miroir organique. Ça veut dire que c'est extraordinaire, puisque le miroir, non seulement il existe, et non seulement il est précis, non seulement quand tu t'approches, il est net, et quand tu t'éloignes, il est flou. Mais en plus, il est vivant. Et il parle. Alors, je dis, quand la Gemara, elle a dit « Chanoch Anar Pidarko », nous, on croit que l'enfant, depuis qu'il a 3 ans, tu dois déterminer exactement quelle est sa trajectoire psychologique pour pouvoir l'accompagner pour lui et sans généralité, mais particulièrement. Mais la Gemara, elle dit, c'est à quel âge? C'est une marloquette, c'est une discussion. Il y en a un qui dit entre 16 et 20 et entre 18 et 22. Alors, j'ai réfléchi, je dis, c'est bizarre, la Gemara, elle parle de 16 ans, de 18 ans. Tu dis, mais à 18 ans, ben... Le mec, il est déjà formaté. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, j'ai compris en vérité, ça n'engage que moi, au pire, c'est vrai, c'est qu'au fond, à quel âge tu peux vraiment parler avec un enfant? Tu peux lui parler. Vous comprenez ou non? Faire du bruit, faire passer des messages, tu peux, mais que l'autre, il te renvoie quelque chose qu'il pense vraiment. Je dis 16, 20 ans, c'est quelqu'un de très mature. 22, peut-être des fois, après son deuxième enfant, il faut que je te parle, il faut qu'on parle des choses importantes. Ça prend du temps. Donc ça veut dire que c'est Alpidarco que tu peux vraiment dire que tu as une discussion avec lui. Mais avant ça, tu travailles en aveugle. C'est tout. Il n'y a pas d'écran. Tu as la tour de l'ordinateur et tu installes. Mais il n'y a pas d'écran. Et tu installes les logiciels. Donne-lui de l'impatience, donne-lui l'intelligence, donne-lui la finesse, donne-lui la crainte de Dieu, donne-lui et tu installes. Tu ne sais pas. Parce que moi, des gens, ils me disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes parents, mes enfants, ils n'écoutent rien. Ils m'envoient balader, ils s'en fichent de tout. Je dis, écoutez, vous êtes parents, installez les logiciels. Ce qu'il va faire avec, ce n'est pas votre problème. Installez. Ah non, vous savez, j'ai renoncé, je suis écœuré, je suis dégoûté. Non. Vous êtes dégoûté de quoi? Vous êtes dégoûté de lui ou vous êtes dégoûté de vous à travers lui? C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on veut des enfants? On veut qu'ils soient des gens bien. On veut qu'ils soient les gens qu'on n'a pas été. On veut qu'ils soient les gens qu'on aurait voulu être. On veut quoi? L'enfant, c'est pas une troisième jambe. C'est une neshama qu'Hachem t'a confiée. Maintenant, est-ce que toi, t'es prêt à lui apporter ce que tu as de meilleur en toi? Ah, tu me dis, il n'y a pas que du meilleur. Mais toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est de faire le tri entre le bon qui est en toi et le mauvais qui est en toi. Comme je vous ai expliqué la dernière fois dans le couple. Dans le couple, il y a une grave erreur, c'est que chacun veut s'occuper du mal de l'autre. C'est une erreur. Soit tu as épousé un demeuré ou une psychopathe, donc c'est normal que tu joues le thérapeute. Soit tu dis, non. Non, je l'aime, je l'adore, ouais. Elle va évoluer de son côté. Moi, je vais évoluer de mon côté. Maintenant, toi, tu travailles, tu es un raf, tu fais du moussard, tu te remets en cause, tu as un psy, tu as une thérapie, tu évolues, tu lis des livres, tu te cherches, tu travailles. C'est ton problème à toi, ça. Donc l'homme, il doit s'occuper de lui. La femme doit s'occuper de elle. Parce que chacun doit chercher le chametz chez soi. Vous savez que le chametz des autres est permis. Si toi, tu vas chez un autre juif, il a deux baguettes sur la table, tu ne transgresses pas Pessah. Tu n'es Pessah, c'est Shabbat. Non, c'est son chametz à lui. Il lui appartient, il est chez lui. S'il est chez toi, c'est compliqué. Même si c'est à lui, c'est compliqué. Mais si t'es chez lui et il y a son chametz à lui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de chercher le chametz des autres. Alors pourquoi tu passes ta vie à chercher le chametz de ta femme ou de ton mari, soi-disant pour améliorer? Donc tu as épousé une demeurée. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, toi, tu t'occupes de toi. Et bizarrement, le fait de s'occuper de soi et de s'améliorer, ça génère dans la maison un esprit qui fait l'autre, que l'autre aussi veut évoluer. Et tu me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je fais plein d'efforts, l'autre fait aucun effort. D'accord. Après, il y a un problème qui s'appelle la confiance. Eh oui, c'est quoi la confiance? C'est prendre le risque de lâcher. C'est qu'un enfant, il a confiance en lui, parce que vous avez confiance en lui. Maintenant, si l'enfant voit que vous n'avez pas confiance en lui, lui n'a pas confiance en lui. Parce que vous êtes un repère. Père, c'est repère. Donc maintenant, comme lui n'a pas confiance en lui, donc il fait des erreurs. Donc quand il fait des erreurs, vous dites, eh ben, j'ai eu raison de ne pas avoir confiance en lui, puisqu'il fait des erreurs. Mais lui, il fait des erreurs, parce que vous n'avez pas confiance en lui. D'accord? Maintenant, pourquoi lui, il n'a pas confiance en lui? Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en lui? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, je te dis un grand secret. Règle tes problèmes. Règle tes problèmes. Et quelqu'un dit, mais grâce à Dieu, Leïnara, j'ai soigné mon psy. Ouf! Peut-être que tu étais plus malade que lui. Un homme, toute sa vie, travaille sur lui. Moi, par exemple, je vous parle. Je travaille sur moi. Vous croyez que vous assistez à un cours. Moi, c'est pour moi, c'est pas pour vous. C'est vous, vous êtes des voyeurs, vous venez assister à mon problème personnel. Parce qu'on dit dans la Torah, Ochiar Tochiar et Amitecha. Tu ne peux réprimander que ton prochain. Si tu te sens supérieur, genre l'autre, les Lorav, l'autre, les élèves. Toi, tu es le thérapeute, l'autre, les malades. Si tu peux pas, ça marchera jamais. Moi, je parle pour moi. Si ça profite à quelqu'un, c'est bien. Je vais dire pire, encore pire, je fais une petite confidence. Même quand quelqu'un me pose une question, il vient chez moi maintenant. Il me dit. Je sais pas, la semaine dernière, une femme, elle m'a dit, mon fils en plein délire de Pourim, il m'a annoncé plutôt, complètement sous qu'il était homo. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Maintenant, moi, elle me pose la question à moi. C'est son problème à elle, c'est son fils à elle. Et moi, je réfléchis combien de pourcents ça me concerne ce truc-là, et que si Dieu m'a demandé de réfléchir aujourd'hui pour lui répondre, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin, moi, de cet argumentaire pour répondre à quelqu'un qui est proche de moi. Ça fait partie de l'Emouna. Vous avez compris ou non? Qu'il n'y a rien par hasard. C'est-à-dire que tes amis, tes ennemis, tes souffrances, tes bonheurs, tes joies, tes pertes de temps, tes gains de temps, c'est pas par hasard. Alors après, c'est quoi? C'est de réussir à vivre en temps réel. Le temps réel, c'est ton temps à toi. D'accord? Maintenant, ta femme, elle est pas bien, c'est maintenant qu'il faut lui parler. Hein, je vais parler ce soir. Ce soir, ça sera une autre histoire. Ton fils, il est bizarre. T'as un instinct, tu dis, tiens, faut que je lui téléphone. Je t'en prie, les États-Unis. Il est 4h du matin là-bas. Je vais l'appeler maintenant. Appelle-le maintenant. T'as envie de l'appeler maintenant? Appelle-le maintenant. Tu dis, mais ça veut rien dire. Mais c'est débile. Mais il a Yeshiva University. C'est vrai que c'est University, mais c'est une Yeshiva aussi. Ils fument des joints, mais ils étudient la Torah. Ouais. Tu dis appelle-le. Je sais pas pourquoi, appelle-le. Il téléphone. Qui c'est qui répond? Christine. Christine, dans la chambre de mon fils. Mahlouf. Qui c'est cette fille? Ah, papa, tu m'appelles maintenant? Papa, tu m'appelles maintenant? Papa, tu m'appelles. Y'a quoi, papa? Qu'est-ce qu'elle fait cette fille dans ta chambre? Ben justement, on s'apprêtait à vérifier que toute la plomberie est conforme. Et c'était la première fois. Il est tombé sur une règle. Il me dit, Roba, et toi, tu sais pas pourquoi tu l'as appelé. Et lui, il envoie la Goya, il la fout dehors et il a sauvé sa Nechama. Toi, tu sais pas pourquoi on l'a appelé. Et lui, il sait pas pourquoi tu l'as appelé. Et... Mais tu l'as appelé. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas l'amour. Ça, c'est... Des bêtises. L'amour, c'est la connexion des Neshamot. Maintenant, un lien que tu as créé en 20 ans, c'est pas du Wi-Fi, ça, c'est du Bifi. Ouais. Donc, automatiquement, les gens qui s'aiment, ils ont la même idée, ils ont la même pensée, ils ont le même souci. La femme, elle accouche, l'homme, il est malade. Moi, combien de fois, le lendemain de l'accouchement de ma femme, j'ai fait une crise de calcul rénaux. Parce que j'ai prié, moi. Moi, je suis malade, elle est malade, comment je vais être bien? C'est normal. L'autre, elle ne sait pas pourquoi elle a des soucis. Son mari est de l'autre côté en train de se stresser, mais il ne veut pas lui dire que ça ne va pas au magasin. Mais elle a peur. Elle dit ça ne va pas, je ne suis pas bien, dis-moi ce qui ne va pas. Parce que, il stocke gouffo. Mais c'est ça qu'on crée. C'est ça le miracle de l'amour. C'est pas les films américains, c'est des lourdeurs. Ça, c'est écrit par des scénaristes qui, comme ils n'ont jamais vécu, ils en ont rêvé. Mais celui qui l'a vécu, il n'a pas besoin d'en rêver. C'est pas une frustration chez lui, c'est une réalité. Donc c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce que tu crées avec l'enfant? Tu crées ce réseau. C'est pour ça que des fois, tu rentres dans des familles. Tu dis, il n'y a pas de famille, là. Il n'y a pas de famille. Il y a un père, une mère, des enfants. En vérité, il n'y a pas. Le père, il regarde les infos. La mère, elle revoit les feux de l'amour. Le gosse, il est sur MSN. La fille, elle est sur la PlayStation. Tu dis, où ils sont? Je ne sais pas comment vous êtes. Si c'est une seule famille, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de douceur. Il y a pas... Et ça, ça se crée. Même le réseau, il faut l'installer. Le mec, il achète l'ordinateur. Il dit, il n'y a rien sur Internet. Monsieur, le réseau, il faut l'installer. Et bien, le réseau de la famille, il faut la créer. Si tu ne l'as pas créé, il n'y a pas, comme dans un couple. La communion, la communication, l'amour, la douceur, la sensibilité, la solidarité, c'est un travail. Ça ne vient pas comme ça. Tu ne comprends pas, on est à la roupa, il y a 2 heures, et manque de respect. Mais la roupa, c'est les starting blocks. Oui. C'est pareil, les enfants. Oui, je ne comprends pas, tu es immature, prends-toi en main. Mais tu crois que je vais être là tout le temps pour toi? Mais regarde loin, vois ton destin. Fais travail, c'est pour toi, mon fils, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu dis, écoute, il a 8 ans. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a 8 ans. Maintenant, pourquoi t'es choqué, toi? Parce que t'as 38 ans. Donc, si t'as attendu 38 ans pour être choqué, comment veux-tu que lui, à 8 ans, il comprenne? Les gens disent, mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est pour le faire avancer, c'est pour lui faire gagner du temps. Mais si tu veux lui faire gagner du temps, il faut vivre avec son temps à lui. C'est son temps à lui que tu veux faire gagner, c'est pas du temps. Maintenant, tu veux lui faire gagner du temps à lui dans ta vie à toi. Parce que toi, tu veux pas qu'il fasse les erreurs que toi, tu as fait. Mais toi, tu es devenu ce que tu es devenu aussi avec les erreurs que tu as fait. Ça, c'est compliqué. Oui, on veut que nos enfants, ils aient que du bien. Mais même dans la tarte aux fraises, il y a du sel. Ça fait ressortir le goût du sucre. Ça va? Donc des fois, l'émission, elle est un peu salée. Mais c'est le résultat qui compte. Ah, tu dis, alors comment on va faire? Ah, je t'explique. Toi, tu t'occupes du bien, le bon Dieu s'occupe du mal. Parce que nous, on peut pas doser le mal. Ça, tu l'as mis dans la meilleure école du monde. Tu payes 4000 euros par mois. Il y a 300 professeurs, 30 élèves. Il y a un drogué dans toute l'école. Il est assis à côté de ton fils. Ah, le mazal. Tu dis, je vais mourir. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que maintenant, cet enfant-là, il n'avait pas compris le bonheur d'avoir des parents équilibrés. Maintenant qu'il est tout à l'heure à côté d'un zonard, le zonard, il lui propose aussi d'être un zonard. Donc il peut plonger être un zonard. Mais si tu l'as nourri comme il faut au niveau équilibre mental, il va dire, mais j'ai des parents de folie. Quand il rentre à la maison, il embrasse son père. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, papa, quand j'ai vu les cas sociaux, je te remercie de m'avoir donné un équilibre de vie. Donc en fin de compte, le sel, il a fait ressortir le sucre. Mais il y a l'inverse aussi, que l'autre il a tout eu facile, il veut du morbide, il veut du sordide, il veut de la mort, il veut de la mort et de la merde. C'est bizarre. Parce qu'il genre, il est en réaction. Bon, la mort, c'est pas forcément un crâne, mais bon. Vous voyez cette logique là? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que nous, on ne peut faire que proposer le meilleur de nous-mêmes. C'est pareil dans un couple. Le mauvais, tu te le gardes pour toi, et le meilleur, tu le donnes à l'autre. Comme tu donnes le meilleur à l'autre. Ouais. Et qu'est-ce que l'autre, il veut de toi? Il veut le meilleur. Donc, quand quelqu'un te demande le meilleur, tu ne peux devenir que meilleur. Alors que toi, tu dis, non, puisque toi, tu me demandes le meilleur, je vais te donner le pire. Alors, puisque toi, tu m'as donné le pire, moi aussi, je vais te donner le pire. Et on se retrouve dans un empire. Qui est empire de plus en plus. Mais pourquoi? Enfin, c'est votre maison, c'est votre galère, c'est votre foyer, c'est votre nid. C'est pas là qu'ils vont faire caca. Non, c'est vrai, c'est une remarque. Hein. Je m'excuse pour les exemples qui sont un peu crus. Je peux mettre de la sauce, mais je vois le sujet. Pourquoi les toilettes et la salle de bain sont les seuls endroits où on va seul? Vous étiez là, mais vous n'étiez pas là la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Toulouse. On s'est vu qu'une fois, c'était avec Madame Cadouze, à l'hôtel, là-bas. Bon. Moi, je me rappelle, vous vous rappelez le thème? Non? Moi, je me rappelle. C'est honteux. Bon, alors... Non, je rigole. Donc, c'est quoi l'idée? Pourquoi les toilettes s'appellent toilettes publiques, alors que quand on rentre dans la salle, il y a un seul toilette? Il devrait y avoir plusieurs, parce que c'est les toilettes publiques. Donc, il devrait y avoir 10 cuvettes, des journaux. Et... Je me dis, mais attends, mais, enfin, un peu de pudeur, monsieur le rabbin. Je dis non, ça s'appelle toilette publique. Pourquoi on rentre seul aux toilettes? C'est pareil la salle de bain. Pourquoi tu rentres seul? Même les gens qui sont pas religieux, même les Suédois, ils se lavent tout seuls. C'est rare qu'ils se mettent à 10, allez tiens, frotte-moi le dos. Non. Et... Alors de là, j'ai appris un secret extraordinaire. C'est que les endroits que tu utilises pour te débarrasser de ta crasse, tu n'es pas obligé d'inviter les gens que tu aimes. Donc toi, tu me dis à moi que je parle de ça, mais toi, ton salon, c'est devenu les toilettes publiques. La chambre à coucher, c'est devenu les toilettes publiques. Toute ta crasse. Mais ta crasse, tu vas aux toilettes, tu vas chez le psy, tu vas... Va, il y a des spécialistes qui sont là pour accueillir ta crasse, des cuvettes. Mais toi, tu veux que l'autre que tu aimes, tu mets ta crasse et après tu dis, après la crasse, j'espère que tu vas m'aimer. L'autre a un coléreux comme ça qui frappait sa femme depuis 18 mois. Je lui dis, mais c'est quoi ton problème? Il m'a dit non. Je dis, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à accepter que ta femme, après que tu l'as frappée, elle ne tourne pas la page. Ça t'énerve tellement que tu la refrappes. Je dis, mais moi, quand je te pince le nez, moi, ça me fait rire. Donc, quand j'étais en colère, j'étais hors de moi. Quand je retrouve mes esprits, je vois que tout est cassé. Je dis, comment pas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'autre, elle dit, mais tu sais, c'est toi qui as tout cassé. Je dis, bon, ben, ça va, on tourne la page. Elle dit, mais c'est moi la page. On tourne comment la page? Et c'est toute la vie, c'est ça. Donc, je te dis un grand conseil. Ça a l'air comme ça de passer dans une masse, mais c'est énorme. Ta crasse, tu te la gardes. Tes problèmes, tu les traites. Il y a des spécialistes, il y a des rabbins, il y a des psys, trucs. Mais laisse les gens que tu aimes tranquilles. Non, les gens ne croient pas. Les gens disent, eh ben, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est compliqué. C'est-à-dire, si c'est des fois le meilleur, des fois le pire. Mais là, c'est le meilleur et le pire. Est-ce que je veux dire ou non? Oh, donne le meilleur. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Qu'elle soit trop heureuse. Que ton mari soit trop épanoui. Il y en a, il m'a dit ça. Je lui dis, vous dites à votre mari qu'il a de la valeur, que c'est un homme sérieux, que vous êtes content de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Elle m'a dit, mais il va être trop heureux. Non, mais des fois, tu... J'entends des trucs, j'ai dit... Bon, c'est pas... Moi, j'ai pas la télé, donc j'ai que le téléphone pour rigoler un peu. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Attendez-vous. Donc, c'est quoi l'idée? On a dit que c'est que Hachem, il met ensemble des personnes. C'est ça que je vous remets avec Zivugim. Donc, quand il met ensemble des personnes, ça veut dire que chacun a besoin de l'autre, ouais, pour faire un travail. Ça s'appelle la complémentaire. Maintenant, les enfants aussi. Les enfants, c'est encore plus vicieux parce que c'est pas qu'Hachem, il a réuni deux morceaux d'une même Neshama pour faire un couple. C'est que les enfants, ils viennent de toi. Donc, puisque ton essence, tu l'as mis à l'intérieur de la femme et que la femme, elle a mélangé la sienne, c'est les deux semences, ça va donner quelque chose de commun. Donc, ce qui va sortir devant toi, ça ne peut être qu'un multiface de toi-même. Maintenant, si toi, tu te connais bien, ta femme se connaît bien, toi, tu connais bien ta femme et ta femme te connaît bien, vous pouvez ensemble reconnaître chez l'enfant les facettes de l'un, les facettes de l'autre. Mais ça, c'est pour les gens équilibrés. Mais les gens qui ont passé 10 ans de leur vie à accuser l'autre de leurs propres défauts, ils auront du mal à voir leurs défauts chez l'enfant puisqu'ils vont s'amuser à accuser l'autre de leurs défauts à eux. C'est ça que je vous avais dit à l'époque. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un pense de lui, vous écoutez ce qu'il vous reproche. Ça s'appelle la réverbération existentielle. Parce que ce que je vois chez l'autre, ça me dérange. Donc comme ça me dérange, qu'est-ce que je fais? Je le renvoie. Mais qu'est-ce que tu renvoies? Tu vois une qualité, ça remet en relief ton défaut. Donc ton défaut, au lieu de l'assumer, tu le projettes. Donc l'autre, il subit une injustice parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu l'accuses d'une chose qui ne le concerne pas. Et toi, en plus, tu ne te sens pas concerné puisque tu penses que ça vient de l'autre. Donc ça ne se termine jamais. T'as compris ou non? C'est comme si tu vas aux impôts, l'inspecteur il dit bon, vous payez, et tu dis ben faites un chèque. Tu dis non, c'est à vous de payer. C'est comme si tu reçois un employé, il s'assoit à ta place, il dit asseyez-vous. Je suis le patron. Moi je m'assois là et vous asseyez là. Il y a des gens comme ça qui. C'est une solution aqueuse, ça s'appelle en chimie, solution aqueuse. Mais ça, c'est aqueuse. Oui? Non, c'est une solution où l'autre il t'accuse. C'est facile d'accuser. Non seulement il a tort, mais en plus il t'accuse. Mais qui brûle le feu, il te casse la voiture, il sort, il dit vous savez pas conduire. On dit la meilleure défense c'est l'attaque. Donc les gens, encore une fois, qui ne veulent pas assumer leur malaise, ils le transfèrent. Maintenant, si nous on travaille pour ça, que moi je m'occupe de moi, toi tu t'occupes de toi, et nous deux on s'occupe de notre couple. Donc nous deux on va s'occuper des enfants. Donc je vais pas chercher chez l'enfant les problèmes, je vais chercher les solutions. Maintenant, il va se poser des choses. C'est normal. Aujourd'hui, il y a ça, demain, il y a ça. Je vais réfléchir. Mais je vais réfléchir ma part à moi, tu vas réfléchir ta part à toi. Il fait pipi au lit. On va réfléchir ensemble. Ah ben, de toute façon, dans votre famille, je suis sûr, c'est tous des névrosés. Mais t'arrêtes pas de crier, ton fils. Ouais, j'arrête pas de crier. Quand tu le cries, tu stresses. Ouais, il stresse. Comme il stresse, il a pas de cadre d'épanouissement. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a que la nuit qu'il peut se lâcher. Eh ben, il se lâche. Donc, la chaleur que tu lui donnes pas et l'espace d'écoulement, il le fait tout seul. Il fait pipi au lit. Tu dis, tu crois? Ben, je vois comment tu le ton, comment tu imposes, comment. Par exemple, il y a un grand danger quand on a de la personnalité. C'est que l'enfant, il ne peut pas grandir à l'ombre de la nôtre. Une fois, quelqu'un m'a dit, vous savez, avant, les parents, ils ne s'occupaient pas des enfants, ils étaient trop absents. Je dis, d'accord, mais vous n'avez pas remarqué que quand les parents sont absents, les enfants sont présents? C'est une grande question. Est-ce que l'éducation, c'est de savoir bien ouvrir les yeux, ou l'éducation, c'est de savoir fermer les yeux? Vous croyez que nos parents, ils savaient pas les embrouilles qu'on faisait? Ils savaient, mais ils ont rien dit. Mais nous, quand on leur plaque sur la tronche, comme de l'ébénisterie à coups de marteau, voilà, t'es comme ça, je suis au courant de tout. T'as gagné quoi maintenant? Le mec, il cherche une définition, il est en phase de changement. Et toi, au lieu de laisser évoluer comme si t'avais rien vu, tu lui plaques sur la tête. C'est pour ça qu'on dit toujours. Dans l'éducation, il faut, par exemple, un enfant qui a menti, il faut lui dire tu as menti. C'est déjà du passé. Il ne faut pas lui dire tu es un menteur. Parce que lui, comme il se cherche, il se trouve. Après, 20 ans après, tu lui dis mais je ne comprends pas, tu passes ta vie à mentir. Il me dit papa, quand j'étais petit, tu m'as dit que je suis un menteur. Alors que l'enfant, il est en devenir, comme toi, tu es en devenir. Tu as planté une affaire il y a 10 ans. Grâce à Dieu, maintenant, tu as fait tchouva, tu es sérieux. Alors toute ta vie, ça va, on va te mettre cette étiquette. Mais alors c'est pire, puisque l'enfant il est vierge, donc il en recherche l'étiquette. Tu lui donnes une étiquette alors qu'il en recherche l'étiquette. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une étiquette sur l'avenir. J'ai confiance en toi. Ou au pire, tu lui donnes une étiquette sur le passé. Tu as menti. Aujourd'hui, tu mens plus. Mais si tu lui dis tu mens, il est foutu.
Mais s'il continue à mentir?
Encore une fois. Oui, mais 2 minutes. On verra les cas particuliers après. Ça va vous coûter une fortune. Non. Je vous dis que c'est un séminaire qu'il faut. Moi, je vous donne 2 heures. Mais après, vous pouvez décompresser. Après, si vous voulez, on parlera de tous les cas possibles. Mais là, je vous donne. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que maintenant, l'enfant, il me pose une question. Et moi, je vais répondre à la question. Ça s'appelle une épreuve. Ouais. Donc, le caractère de l'enfant, au fur et à mesure qu'il va se former, il va, en fin de compte, correspondre aux étapes qui sont nécessaires pour lui et qui sont nécessaires pour moi, puisqu'on a dit que la vie, c'est un partenariat. Donc, dans n'importe quel domaine, la Emouna, c'est d'accepter qu'en fin de compte, le relief de la réalité, il ne fait qu'épouser le relief de ma réalité. Mes manques à moi, ils vont se poser en face par des questions. Mes plus à moi, ils vont se poser en face par des besoins. Donc moi, ce que j'ai en plus, quelqu'un en aura besoin, donc ça va venir. Ce que j'ai en moins, quelqu'un va me le proposer et ça va venir. Par exemple, moi j'ai plus d'assurance, je vais rencontrer quelqu'un qui a moins d'assurance et je vais être distributeur d'assurance. Maintenant, moi j'ai pas assez de vérité, je vais rencontrer quelqu'un de très vrai. Donc moi maintenant, je vais être confronté. Ou j'assume la vérité et je vais dire bon, je vais changer. Ou non, je vais renvoyer la vérité parce qu'elle me dérange. Donc tu vois que le relief, c'est comme quand tu déchires un billet en deux. Sache que les deux déchirures, elles ont un point commun, c'est qu'elles se complètent. Maintenant, est-ce que moi j'accepte que la réalité me complète? C'est pour ça qu'en hébreu, tov. Tov, ça veut dire quoi tov? Ça veut dire bien. Ça c'est en hébreu. Mais tov, dans le langage chachamim, ça veut dire toujours dire complet. Chaque fois qu'on voit Tov dans la Torah, ça veut dire complet, Shalem en hébreu, d'accord? Donc par exemple, quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal, Tov. Pourquoi? Parce que le Mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme. Le Mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Quand les deux morceaux de Mazal se rencontrent, le Mazal est complet, on dit Mazal, Tov. Quand le Mazal ne s'est pas encore rencontré, on dit Mazal, Mazal Maja. Le Mazal n'est pas encore arrivé. Je traduis pour les anglophones. Ah, d'accord. C'est d'arabe. Bon, le Mazal n'est pas arrivé. Maja. Bon. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Tov, ça veut dire complet. Quand Hachem il a fini la création du monde, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Ça veut dire que maintenant tout est complet. Tov, c'est toujours complet. Quand on dit Adam Tov, ça veut dire complet. Lev Tov, dans le Pirkei Avot, ça veut dire que la personne, son intériorité, elle est entière, elle est complète. Tov, c'est toujours complet. Donc maintenant, si Tov, ça veut dire complet. Donc les étives, faire du bien, ça veut dire compléter. Quand je t'apporte ce qui te manque, donc j'ai comblé le manque, dont la chose elle est complète, donc ça s'appelle faire du bien. C'est clair? Maintenant quand on dit kol de'avid rahamana l'etav, tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Gamzul et tova. Donc comment on va traduire maintenant? C'est pas simplement de dire que c'est bien, c'est pour le bien. Non, que quand je dis tout ce qui m'arrive est pour le bien, traduction, tout ce qui m'arrive vient pour compléter quelque chose chez moi. Ça complète. Mes amis, ça complète quelque chose. Et bien mes ennemis aussi. Ils sont là pour me faire grandir. Parce qu'un type qui est énervant, par exemple, c'est une occasion d'être énervé. Ou c'est une occasion de faire de la musculation de patience. Et tu vas dire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec un mec qui me saoule pour rien. Mais peut-être que quand tu vas côtoyer pendant 5 ans quelqu'un qui t'énerve pour rien, le jour où quelqu'un qui t'importe beaucoup, par exemple ton fils, il va t'énerver, tu seras musclé. Alors que si tu n'as jamais rencontré des gens qui t'ont énervé, donc tu vas détruire à coup de missile en disproportionnant la défense alors que tu as un moustique en face de toi, parce que justement tu n'as pas musclé et tu n'as pas maîtrisé ton flux existentiel de nerfs à travers ta colère. Donc tu vois, qu'est-ce qui fait le bon Dieu? Il te donne à l'avance les outils qui sont nécessaires pour les étapes d'après. Donc le travail que tu fais avec ta femme et avec ton mari, ça sera nécessaire pour l'éducation. Le travail que tu fais avec l'éducation, il te sert quand tu seras grand-père. Ouais. Le travail que tu fais avec tes employés, il te sera. Je vois plein de gens, par exemple, dans le professionnel, qui se débrouillent comme des poissons, et dans la vie émotionnelle, ils sont perdus. Ou dans la teshuva, ils sont perdus. Je dis, mais prends ton efficacité professionnelle et applique-la dans ton émotionnel. Tu dis, mais ça n'a rien à voir. Dans l'émotionnel, on ne voit pas les repères. Dans le professionnel, bah, y a une échéance, il y a un produit, il y a un chiffre, il y a un transporteur. Ça va, c'est facile. Je dis, mais c'est pareil. Si tu prends le schéma, si tu prends l'équation de la situation, bah, là, tu as un projet, là, tu as un enfant, là, tu as une échéance, tu vois que le temps passe, là, tu as des choses à faire passer, là, tu as des gens qui peuvent le véhiculer, tu peux prendre des intermédiaires, ça s'appelle les professeurs, ça s'appelle l'école, tu vas travailler. Tu dis, oui, mais on ne voit rien. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est de fonctionner dans ce qui ne se voit pas, c'est pas de fonctionner dans ce qui se voit. Maintenant, toi, tu es intéressé à ce que ton enfant il soit quelqu'un de bien quand tu es là ou même quand tu n'es plus là? Même quand tu n'es plus là. Donc, quand toi, tu travailles sur lui alors que tu ne vois rien, lui, il sera autonome même quand il ne te verra pas. N'essayez pas de répéter, c'est impossible. D'accord? C'est pour ça que c'est enregistré. Vous avez compris la logique? Ça, c'est énorme. Avec ça, tu fais une conférence normale. Rien que cette idée de la réverbération. En fin de compte, on fait ça, on renvoie, il renvoie. On renvoie, il renvoie. On renvoie, il renvoie. Donc j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Et ça ne s'arrête jamais. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui tirent une leçon tous les 4 ans. Mais il y a des gens qui tirent une leçon toutes les secondes. Encore, encore, encore. Moi, ce cours, je l'ai fait 1 million de fois. Mais où elle est la feuille? Chifrala, c'est une marque connue. Oui. Pourquoi? Parce que plus tu fais, plus il évolue. C'est pour ça que je dis que c'est un grand halom tov de dire je vais vous faire ça en 2 heures. Je vais faire ce que je peux faire. Ça fait 1h05. Je n'ai même pas commencé le cours. Donc moi, je dis ce que m'inspire votre présence. Donc ce qui est sûrement nécessaire pour vous. Mais ça ne suit pas un plan réel. En gros, ça suit une direction. Je sais qu'on va à Las Vegas, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver. Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, cette logique de partenariat, cette logique de miroir, oui, elle a été mise en place par Dieu. Ça s'appelle le mazal. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça, c'est pas fixé. Tu peux avoir des enfants extraordinaires et les gaspiller. Tu peux avoir des enfants tordus et les rendre extraordinaires. C'est pas fixé. Le mazal, c'est les données. Ce que tu fais avec les données, c'est pas fixé. Donc on a tout pour réussir, on a tout pour être heureux, on a tout pour se courir la vie. C'est ça les barbiques. C'est pour ça que souvent, les plus grandes situations d'amour, elles contiennent les plus grandes situations de haine. Il n'y a pas comme l'amour dans du couple, mais il n'y a pas comme la haine dans le divorce. Tu ne veux pas me payer. Tes parents, tu peux les aimer à la folie, ou tu peux leur en vouloir, mais qui crèvent tous les jours. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ce qui est essentiel, c'est extrême. C'est ça que ça demande plus de... Regardez par exemple, pour un cœur qui a fusionné sans être maîtrisé, ils sont en train de faire tout un scandale au Japon. Sous prétexte que c'est de l'énergie nucléaire. Mais une femme, c'est de l'énergie nucléaire. Un mari, c'est de l'énergie nucléaire. Oui, donc fais bien attention à la maîtrise de l'énergie. Parce que s'il y a des pertes d'énergie qui sont mal gérées, comme la colère, comme les nerfs, comme la névrose, comme les complexes, je ne sais pas jusqu'où il va aller le nuage radioactif. Des fois, c'est sur plusieurs générations. L'autre est encore traumatisé de l'adultère de la grand-mère que son grand-père n'a pas voulu divorcer, il l'a gardée. Mais comme il l'a détruite mentalement de culpabilité pendant 35 ans, ça a détruit la grand-mère, ça a détruit la mère, ça a détruit la fille. Donc toi, tu parles avec la fille et tu vois que la fille, elle est complètement détruite. Donc comment 3 générations, ils ont pu être détruits par un acte qui a duré une demi-heure dans l'entrepôt là-bas à Oujda. Avec Mohamed. Ou au moins. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. Donc si c'est ça, alors maintenant on peut commencer à la Gemara. C'est marqué. Tania, Rabbi Omer, Rabbi il a dit. J'ai un peu sauté le début, on reprend d'ici directement. C'est 1, 2, 3, 4, quatrième paragraphe. Tania, Rabbi Omer, Rabbi il a dit. Galou Iveadoua, l'ifnemi, shamar vaya olam. J'en ai trop là. D'accord ? C'est dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde soit. Chez Ben Mechabed et Timo Yoter Miaviv, qu'un enfant respecte plus sa mère que son père. Mipne chez Michté de la Tobé de Varim, parce qu'elle fait des efforts dans les paroles. Rachid explique parce qu'elle le séduit par des paroles. Lefichar, c'est pourquoi. Igdi Makadosh Bohru, Kiboud Av, le Kiboud M, c'est pourquoi Hachem a fait précéder le kavod du père au kavod de la mère. Bon, on va expliquer. Dans la Torah, c'est marqué Kaved et Avicha ve et Imecha. Respecte ton père et ta mère. Vous savez que. La mitzvah de respecter les parents, elle est expliquée en deux termes différents. Une fois c'est marqué Kaved et Avicha et Imecha, respecte ton père et ta mère. Et une fois c'est marqué Ish, Imo, Ve'aviv, Tirahu. Un homme, sa mère et son père, il craindra. Alors il y a un truc bizarre, c'est que dans le respect, on a mis le père d'abord, et dans la crainte, on a mis la mère d'abord. C'est bizarre. Hein ? On va voir. Maintenant, ici, c'est marqué Kaved et Avicha et Imecha, respecte ton père et ta mère. Donc, la Gemara, elle remarque ça, donc elle dit il y a un enseignement. Maintenant, nous, d'un autre côté, on ne comprend pas, parce qu'il fallait bien qu'on marque le père ou la mère d'abord. On n'avait pas marqué respecte en facteur ton père, ta mère. C'est obligé de marquer ou l'un ou l'autre d'abord. En vérité, c'est faux. La Torah, elle aurait pu écrire dans une paracha respecte ton père. Dans une autre paracha, elle aurait écrit respecte ta mère. On aurait dit Xera Shava. On relit les deux mots Kaved Kaved. On dit il faut respecter le père et la mère. Pourquoi la Torah, dans un seul pasouk, elle a dit respecte le père et la mère, en priorité le père ? Ça, c'est l'interrogation d'Agmara. Alors, Agmara, elle dit Galou Iveadoua s'est dévoilé et connu. Donc, c'est quelque chose qui est constatable facilement. Donc, on n'a pas besoin de la Torah, a priori. Bon, et pourtant. L'ifnemi shamar ve'aya aolam, devant celui qui a dit que le monde soit. Maintenant, qui c'est qui a créé le monde en disant que le monde soit? C'est le bon Dieu. Donc il fallait marquer directement l'ifne akadosh baruch hu, l'ifne rahamana. C'est quoi ce langage? L'ifnemi shamar ve'aya aolam. En vérité, c'est pour t'expliquer que ce truc-là qu'on va te dire maintenant, de ma mère mémotechnique, on te met en situation de penser que c'est quelque chose qui est intrinsèque depuis la création du monde. C'est ni social, ni psychologique, ni éduqué, ni culturel, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Que quoi ? Chez Aben, Mechabed et Timo, Yoter Miaviv. Que l'enfant respecte plus son père que sa mère. Alors là, il faut faire une petite parenthèse. C'est quoi le respect ? Parce que nous, on dit le respect, c'est un mot bizarre. Tu respectes, par exemple, la loi. En vérité, tu as peur du flic. D'accord. Tu respectes l'ambiance. Mais non, ça ne se fait pas de rigoler à un enterrement. D'accord. Tu respectes. Les couleurs, c'est les coordonnées. D'accord ? Tu respectes les capacités. En fin de compte, tu es impressionné. Donc le mot respect, en fin de compte, il a beaucoup de sens. Donc ici, le respect dont on parle, c'est quoi ? Alors comme ça, il explique le Rav Dessler. Il dit, le respect, c'est la résonance de l'amour. Quand, on a dit tout à l'heure que la vie, c'est un miroir. D'accord ? Donc c'est des partenariats. Donc j'ai une personne en face d'une personne. Maintenant, quand quelqu'un exprime de l'amour, alors moi, automatiquement, je lui donne du respect. C'est ce respect-là dont on parle. Ouais. Pourquoi ? Parce que le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Bon, pour ceux qui ont écouté un peu des cours à moi ou qui ont lu le livre, on a expliqué là-bas que le but de la vie, c'est d'exister. Exister, c'est quoi ? C'est extérieur, ister, être à l'extérieur. Donc vous avez deux personnes. Une en face. On va commencer par une. Et une personne qui est là. Elle a un potentiel à l'intérieur et elle a une réalité. Donc quand elle doit exister, c'est-à-dire qu'elle doit exprimer son potentiel à l'extérieur. Maintenant, il dit le Maharal, « Kol ha'im zelatzet min ha'koach ha'napoal » Toute la vie, c'est passé du potentiel au réel. Sur cette phrase-là, j'ai écrit le premier livre de 400 pages. Donc, c'est tous les moyens d'existence. C'est tous les cheminements d'existence. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu dois passer de là à là. Maintenant, la personne qui est en face de toi, elle peut te donner la possibilité d'exister. Maintenant, comment on appelle l'espace que je crée pour que toi, tu existes en priorité, s'appelle le respect. Par exemple, moi, vous me respectez. Ça veut dire que vous me permettez d'exister. parce que je suis beau, parce que je suis barbu. Non, parce que comme le sujet vous intéresse, comme mon discours vous intéresse, donc vous créez un espace entre vous et moi, et aussi un espace intellectuel, et aussi un espace de fatigue et de patience pour pouvoir laisser pénétrer. Donc en fait, vous m'encouragez à exister, d'accord ? C'est pareil, quand toi, tu veux savoir qui tu es, il faut que tu saches d'où tu viens. Donc en respectant tes parents, ils vont exister. Comme ils vont exister, tu vas savoir qui ils sont. Et quand tu vas savoir qui ils sont, tu sais qui tu es, puisque tu sais d'où tu viens. Maintenant, quand tu ne respectes pas tes parents, ils n'arrivent pas à exister. Comme ils n'existent pas, tu ne sais pas qui ils sont. Comme tu ne sais pas qui ils sont, tu ne sais pas d'où tu viens. Après, les gens, ils passent leur vie à se chercher. Mais le bonheur est dans le pré. C'est pour ça qu'il a appelé sa femme Marguerite. Non, c'est pas grave. D'accord. Parce que la première fois qu'il a vu, il a dit « Oh la vache !» D'accord. Donc c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Alors par exemple, malheureusement, on peut apprendre du malheur. Les nazis ont fabriqué ce qu'on appelle des camps d'extermination. Maintenant, vous savez très bien que l'extermination physique ne peut que être précédée de l'extermination morale et mentale. C'était des stratèges. Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur la Shoah. C'était d'une intelligence diabolique pour amener les gens dans un équilibre entre l'espoir et le désespoir. L'espoir qu'ils vont s'en sortir, donc ils ne vont pas s'enfuir. Et le désespoir pour qu'ils puissent rentrer désespérés dans la chambre à gaz. C'est un calcul qui a démarré depuis les lois raciales, ensuite enfermés dans le ghetto, ensuite ne pas manger 200 calories par jour, après d'être enfermé dans un wagon, et après d'arriver sur les camps des bergers allemands, un couloir, une chambre à gaz, le four. C'est un calcul incroyable. D'accord ? C'est d'une finesse incroyable dans le pourri. Maintenant, celui qui est intelligent, il peut apprendre du pourri qu'est-ce qui est le bon. Puisque le bien, c'est souvent le contraire du pourri. Donc, par exemple, dans un camp de la mort, il y a quatre règles. Première règle, la personne, quand elle rentre, on lui enlève son nom, on lui donne un numéro. On dépersonnalise la personne. Deuxième niveau, on lui rase la tête, on lui enlève ses habits. La Gemara, elle dit, les habits de quelqu'un, c'est le kavod. Les cheveux, c'est le kavod. Donc, quand tu rases la tête de quelqu'un, ou tu lui enlèves ses habits, tu lui donnes un pyjama à deux balles, il perd son kavod. Le mec, il est arrivé Rothschild. Vous savez, les voyous qui se la jouent, qui se la pètent, qui ont des battes de baseball. Qu'est-ce qu'ils font dans les commissariats? Ils n'ont pas besoin de les frapper. Ils les mettent en slip, au milieu. En slip, le mec. Ni les Santiago, ni son beau jean, ni son Redskin à 800 euros. En slip, le mec. Et tout le monde passe à côté, mais personne ne le regarde. Le mec, il est le chef de la bande. Deux heures après, il va parler. Parce qu'il n'existe plus. T'as un cabot. Avec ta bande, avec ta baba, avec ton Harley Davidson, le mec, il est là comme ça, comme un deb. Ou tout nu, c'est encore mieux. Il a fini parce qu'il n'existe plus. C'est très dur de garder sa dignité quand tu es tout nu. Tu vois, dans les chambres à gaz, ils ont fait le kratschema. Et le nazi est en train de rigoler. Donc lui, il rigole d'une femme toute nue. Et elle fait le kratschema. Qui c'est le chien? Qui c'est l'homme? T'as grandi cette force? Quelqu'un m'a dit, Chas de Shalom, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une Shoah? Je dis non. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce qu'on n'est pas au niveau. Il faut être au niveau. Déjà, pour 100 euros, les gens, ils sont mechallel Shabbat. Tu vas leur envoyer 1 million d'Arabes avec des couteaux. Ils vont pas se convertir à l'islam. Ils vont devenir Ahmadinejad. Avec joie. Ça sert à rien. Parce qu'on ne met une épreuve que quand il y a une épreuve. Mais quand on est sûr du résultat, on ne met pas une épreuve. C'est pas la peine. Où j'étais, moi? Bon, alors donc on a dit dans le camp, il y a quatre éléments. On t'enlève le nom, on t'enlève l'habit, on t'enlève la parole. Vous savez que dans un camp, un SS, un déporté n'a pas le droit de parler avec un SS. Il a le droit de parler avec un autre déporté qui est là, c'est la même race. Mais la race supérieure, SS, super salaud, c'est connu, d'accord? Tu ne peux pas lui parler. Donc il enlève la parole et on enlève l'acte. L'action vaut rien. Tu fais un trou, tu ne fais pas de trou, tu montes un mur, tu descends un mur, de toute façon tu vas sortir par la cheminée. D'accord? Maintenant, bizarrement, les quatre pôles existentiels d'un homme, c'est ça. C'est son image, sa parole, son acte et son nom. Donc, la Gemara, elle dit dans Baba Metzia, Daf Nun Chet, si tu donnes un nom moqueur à quelqu'un, ouais, celui qui donne un nom moqueur à quelqu'un, il y aurait le Geinam ve'en Olim. Il descend au Geinam, il ne remonte pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'empêches d'exister. Comme tu lui as créé l'enfer dans ce monde, en se moquant de lui, le gros, le bouffi, le lourd, le tunisien, le marocain. Bon, ça va, ça suffit, c'est rigolo une fois. Non, ça fait 10 ans. Le mec, il est devenu fou. Ouais. Le nom, c'est la personne, c'est la représentativité de la personne. Donc si je casse ton nom, je t'empêche d'exister. Par contre, le contraire, tu te rappelles du nom de quelqu'un. 10 ans après, tu le vois. Le mec, oh, tu lui as fait un kavod. Le mec, c'est mieux que 70 conférences. Le lendemain, il dit, le rabbin, il m'a fait kavod, mais elle était finie. C'est incroyable. Donc le nom, c'est l'existence de la personne. L'image, c'est ce qui le représente aussi. Tu te moques de son image. Ouais. Ça va, elle a fait un petit effort, elle s'est arrangée. Dis-lui, t'es belle. Ne dis pas, oh, t'as vu comment elle est belle, l'actrice? Ça veut dire, moi, je suis moche. elle existe à travers son image. Fais-lui plaisir. Ça, c'est son habit, ouais. Son acte, quelqu'un il a fait quelque chose, dis-lui Chazak, bravo, c'est bien. Bon, ne dis pas, tu aurais pu faire mieux, c'est dommage, tu es nul, tu l'as cassé. Et la parole, quand quelqu'un parle, ouais, écoute-le. Quand tu parles, quand il parle, il écoute. Maintenant, si toi, par exemple, tu appelles quelqu'un, il ne répond pas. Alors, au bout de deux fois, tu dis, attends, j'existe pas ou quoi? Donc, quand tu écoutes quelqu'un, tu te fais exister. Donc, la parole, c'est un pôle d'existence. L'acte, c'est un pôle d'existence. L'image, c'est un pôle d'existence. Le nom, c'est un pôle d'existence. Maintenant, quand tu empêches quelqu'un sur ces quatre pôles, il n'existe pas. Tu as fabriqué un petit camp de la mort. Le contraire, tu optimises. Par exemple, quelqu'un qui a des complexes, qui a des malaises, qui a des peurs. Fais du kavod. Plus tu fais du kavod, plus il va exister. Pourquoi? Tu dis, mais c'est impossible. Puisque les toxines qui ont bouché les canaux existentiels, ils sont à l'intérieur. Comment je peux les atteindre? Un mec, il est bourré de complexes. Je ne peux pas lui dire, sois bon, il est mauvais. Alors, je dis, tu es bon. Quand tu es bon, qu'est-ce que je fais? J'augmente à l'intérieur le respect de lui-même. Comme j'augmente le respect, la pression, elle augmente. Elle fait sauter les toxines. Donc, il est bon. Tu dis, mais en réalité, il n'était pas bon. D'accord, mais tu parles en potentiel, une réalité. Donc, le temps que la réalité, le temps que le potentiel se réalise, tu parles au potentiel. En faisant rêver que c'est sa réalité. Et lui, après, juste, il va adhérer à sa réalité. Mais c'est très bien. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Ça va? Donc, les nazis, ils l'empêchent d'exister. Toi, tu le fais exister. Donc, si le respect, c'est le droit d'exister. Donc, quand quelqu'un, on a dit que le respect, c'est la résidence de l'amour. Quand quelqu'un exprime de l'amour, moi, ça m'intéresse cet amour-là. Ouais? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le respecter. C'est-à-dire que je vais encourager ce type de comportement. Parce que je vais l'encourager à être. Vous me suivez ou non? Donc, je vais créer un espace pour que l'autre existe. Donc, un enfant, quand il reçoit l'amour, il respecte. Ça va? C'est-à-dire, il va être encouragé à. Maintenant, la Gemara, elle dit que l'enfant respecte plus sa mère que son père, parce que la mère, elle le séduit par des paroles. Traduction, c'est que la mère... Bon, on prend un peu les choses à l'envers, mais vous avez le cerveau rapide, vous allez comprendre. À l'intérieur d'une personne, il y a deux pôles. Il y a un pôle émotionnel, un pôle intellectuel. Maintenant, ces pôles-là, on a dit qu'ils doivent s'exprimer. Ils doivent passer du potentiel au réel. Maintenant, il faut créer des choses à l'extérieur qui vont susciter l'extension et l'expansion de ce type de phénomène. Maintenant, la mère, elle donne la tendresse. En donnant la tendresse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un espace qui est dynamique pour faire que l'enfant exprime chez lui le pendant de la tendresse, qui est la créativité et l'initiative. Ça va? Donc, comme la mère, elle transmet la tendresse ouvertement, donc l'enfant, il va exprimer l'initiative et la créativité. C'est l'espace qu'on lui a donné. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on a dit que le respect est la résonance de l'amour. Donc l'enfant, il sera plus facilement à respecter sa mère que son père. Pourquoi? Parce que l'amour de la mère se voit, puisqu'il est exprimé. Par contre, l'amour du père ne se voit pas. Pourquoi? Parce que numéro un, les pères sont des pères. Grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et que le père, son amour, il exprime dehors, dans le travail. Donc ça ne se voit pas forcément. Après, quand il rentre, la mère lui dit, écoute, il y a eu des problèmes avec le petit, il faut que tu joues ton rôle de Gestapo. Et après qu'il a fini son rôle de Gestapo et qu'il a esquinté le gosse, il regarde l'enfant, il dit, j'espère que tu sens que je t'aime. Donc il faut qu'un enfant, il arrive à comprendre, à trouver l'amour de son père. C'est pas facile. Ouais. Maintenant, d'un autre côté, le père, il doit être capable d'exprimer l'amour. Mais comme le père a été élevé comme un garçon, il a beaucoup de mal à exprimer l'amour. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour aider le père à devenir un exprimant d'amour? Il a créé chez la femme une addiction, une espèce de drogue. Vous savez que la femme est une droguée, vous savez ça? Vous savez?
Oui, c'est sûr.
Ouais. La femme est une droguée. Elle a perpétuellement besoin d'être rassurée sur l'intensité des sentiments de son mari depuis sa roupa jusqu'à sa mort. Une femme n'épouse quelqu'un que pour l'amour, c'est tout. Elle s'en fout. Tu dis l'argent, elle peut vivre dans un deux pièces si elle se sent aimée. Mais si dans un 1000 mètres carrés elle ne se sent pas aimée, elle veut mourir. Pourquoi chérie? Mais qu'est-ce qui te manque? Dit un mari. Ah ouais, moi t'exagères. D'accord. Donc une femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des sentiments. C'est tout ce qu'elle veut. Comme un homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du respect. C'est tout. La preuve, tu veux casser un homme. Toi, en tant que femme, tu veux casser un homme. Tu dis pas je t'aime plus. Il croit pas. Tu dis t'es un pauvre type. Il meurt. Tu veux casser une femme, tu dis pas t'es nul, ça dit tous les jours. Il dit je t'aime plus, elle meurt. Ne dis pas ce mot. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle est droguée d'amour et un homme est drogué de respect. Et l'inverse aussi. Ça, je vous donne un truc en plus, parce que je l'ai découvert ces jours-ci, là. C'est un truc effroyable. Mais c'est très, très puissant. Donc, je vous souhaite que, si Dieu veut, vous n'aurez jamais besoin de l'utiliser dans le négatif. C'est qu'une fois, une femme, elle vient chez moi avec une Megillah d'Esther. Et moi, je me rends compte que c'est que les défauts de son mari. Elle m'a dit, il est tordu, il est méchant, il est pervers, il est pourri, il est bête, il est lourd, il est radin, il est... J'ai écouté, vous parlez de qui, d'Hitler ? Elle me dit, non, mon mari. Je lui dis, pourquoi vous me racontez tout ça ? Elle me dit, mais c'est du lachonara. Elle me dit, non, mais c'est les toilettes. Les toilettes, ça veut dire, c'est dans un but constructif. Les toilettes, ça veut dire, je lui dis, mais ça, vous auriez mieux fait de dire aux toilettes. C'est pas grave. D'accord ? Elle me dit, mais c'est pour faire avancer les choses. J'ai écouté, madame, moi, je sais pas pourquoi vous êtes là. Mais je peux vous dire une chose. C'est qu'une personne que vous ne respectez pas, un jour, vous l'admirez plus. Et une personne que vous n'admirez plus, un jour, vous l'aimez plus. Parce que aimer, c'est faire un. Alors comment je vais faire un avec quelqu'un que je trouve débile, que je trouve pervers, que je trouve tordu, que je trouve pourri? Tu me dis, mais il est comme ça. Je dis, non, il est en devenir, il est en résonance, il est en réverbération de votre malaise, il est, je ne sais pas ce qu'il est. Mais si vraiment il est fou, donc ou vous êtes une thérapeute, ou vous êtes une folle. Parce que qui est-ce qui attire les fous? Ou des gens qui sont fous, parce que ce qui se ressemble, ça sent. Ou des gens qui ont besoin de soigner des fous. Il y a des filles comme ça, elles me disent, mais je ne comprends pas arabe, je rencontre que des malades. Je dis, mais vous n'avez pas un petit côté infirmière? Elle me dit, oui. Eh ben... Tu marques docteur, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont tous avec leurs problèmes? Mais c'est marqué docteur. L'autre, elle veut materner, elle rencontre des gamins. 32 ans, ouais, j'ai besoin de toi, il faut que tu me prennes en main, il faut que tu m'aides. Mais t'as un côté maternel, toi. Ouais, t'aimes bien materner. Ouais, j'adore. Donc tu rencontres des gens qui ont besoin d'être maternés. Oh, c'est compliqué. Bah, allez. Même le bouchon, il va avec le stylo. C'est un phénomène, ça. Ça vous choque pas, moi? Moi, ça me choque. Tu dis, mais c'est normal. Regarde, regarde comment tu dis. Ils ont été faits l'un pour l'autre. Donc qu'est-ce que tu reproches à ton mari? Te ressembler ou d'être complémentaire? Donc tu dis, nos différences, on va les utiliser pour grandir. Donc un défaut, quand tu le subis, il te fait souffrir. Quand tu l'assumes, il te fait grandir. Et comme tu l'as épousé pour l'indifférence, ça serait dommage que ça soit la différence qui vous sépare. Pourquoi tu l'as épousé à elle? Parce qu'elle était différente. Pourquoi tu la quittes? Parce qu'on est trop différents. Je comprends pas, il fallait épouser ta sœur, pas de surprise. Ta mère, encore mieux. C'est interdit par la Torah. Ni d'épouser ta mère, ni de comparer avec ta mère. Ah, cuisine comme ma mère, fais comme ma mère, sois gentil comme ma mère, sois douce comme ma mère. Mais va chez ta mère. Ça sera plus simple. Non, les gens, ils comprennent pas. Va chez ta mère. C'est une formule. Va chez ta mère. Il faut le marquer, bon, il faut être discret, mais surtout, tu mets à l'entrée de la maison, VCTM, quand elle te dit quelque chose, tu... Quand tu dis, tu vois, quand toi tu lui dis quelque chose, il te dit. D'accord, je vais apprendre à t'aimer, toi. Mais aimer, encore une fois, bah, aimer, c'est faire un. Mais alors, les gens avec qui on fait un, on les aime. Le costard, au bout d'un an, tu l'aimes bien, ton costard. Tu dis, bon, donne-le-moi. Bon, c'est un costard, mais quand même, si déjà un costard, à plus forte raison, la personne avec qui tu as investi. Même cette boîte, tu l'aimes bien. Ça fait du mal de la vendre, parce que bon, c'est ton bébé. Cette maison, t'as vécu des choses et tout ça. Puis moi, je m'en voulais. Donc, toutes les choses avec lesquelles tu fais un, tu les aimes. Parce que aimer, c'est faire un. Ça va? Donc, aimer ses enfants, c'est quoi? C'est faire un avec eux. Donc, ici, c'est pareil. Puisqu'on a dit que la résonance, l'amour, le respect, c'est la résonance de l'amour. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne de l'amour, vous lui renvoyez du respect. Maintenant, il y a une loi incroyable en mathématiques qui s'appelle la multiplication. Vous savez que toutes les mathématiques, ce sont que des principes philosophiques, et même kabbalistiques, qui ont été numérisés. Vous savez ça? Ça s'appelle la philosophie des mathématiques. Par exemple, la soustraction. C'est quoi la soustraction? La soustraction, on l'appelle ça en français, la différence. Faire la différence. Ouais. Donc quand vous allez soustraire deux choses qui sont différentes, ça fait apparaître la différence. Par exemple, quand vous prenez la gematria de Moshe Rabbeinu, qui était en conflit avec Korah, quand vous allez soustraire Korah de Moshe, vous trouvez la gématria de Hevel, Caïn et Abel. Tu mets quel rapport? Maintenant, imagine-toi que c'est marqué dans les livres de Kabbalah que Moshe, c'est un Gilgoul de Evel et que Korach, c'est un Gilgoul de Caïn. Mais Caïn, il a tué Evel. Maintenant, comment Caïn, il a tué Evel? Il l'a enterré dans la terre. Ouais? C'est-à-dire qu'il l'a emmené dans un endroit où il y avait du sable mouvant et Caïn, et Evel, il est mort et lui, il n'a rien fait. Donc Caïn, il a vu Evel s'enfoncer dans la terre. Et comment il est mort, Korach? Il s'est enfoncé dans la terre. Devant qui? Moshe. Maintenant, pourquoi Caïn, il a tué Evel? Parce que Evel, il avait une sœur jumelle. Et lui, il a voulu pour lui. Donc, il a tué son frère pour avoir sa femme, qui était sa sœur. Parce que se mariait avec la sœur à l'époque, il n'y avait pas de femme. Ouais. Et Korach, on dit que Caïn, il a aussi un Gilgoul dans Yitro. Donc, Yitro, c'est un Gilgoul de Caïn. Une réincarnation. C'est une parcelle de la Neshama qui est revenue. Donc maintenant, et Yitro, il a donné sa fille à Moshe pour réparer le fait qu'il avait pris la sœur de Hevel. Comment ça marche? Donc tu vois deux personnes, en vérité, c'est une histoire qui doit se réparer. Donc quelqu'un m'a dit, oh, les Gilgoulim, il m'a dit, vous croyez au Gilgoulim? Vous croyez à la réincarnation? Je lui ai dit, mais tu ne crois pas à la réincarnation? Mais toi, quand tu as glandé, par exemple, en CM2, tu n'as rien foutu. Tu n'es pas cette classe. Après, tu te retrouves avec ton fils qui est en CM2. Donc il dit, papa, tu m'aides à faire les devoirs. Mais toi, tu comprends rien. Donc le fils, il te regarde, il fait, papa, tu comprends rien. Tu n'es pas en train de refaire en Gilgoul ton CM2. Je vous dis le secret. Je l'avais dit déjà la dernière fois, mais je vous le redis, dans l'espoir que vous retenez tout. C'est que la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Tout ce que tu n'as pas réglé, tu vas le régler. T'en fais pas. Est-ce que tu n'as pas réglé que tu es célibataire, tu vas le régler avec ta femme. Est-ce que tu n'as pas réglé avec ta femme, tu vas le régler avec tes enfants. Vous rappelez de ça, non? Le cycle en 4 ans. Et dans la mémoire. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on a dit, et ça c'est une loi mathématique, on a dit la soustraction, la multiplication, c'est quoi? C'est le développement du potentiel. Alors c'est un truc incroyable. Mais encore une fois, ne le prenez pas mal. Hein. 4 fois 3, ça fait combien? 12. Et 3 fois 4?
12.
C'est extraordinaire. Ça vous choque pas? 3 fois 4, ça fait 12. Et 4 fois 3, ça fait 12. C'est beau, non? Mais, je sais pas, 6 moins 2 et 2 moins 6, c'est pas pareil. 4 divisé par 3 et 3 divisé par 4, c'est pas pareil. Alors comment ça se fait que 3 fois 4 et 4 fois 3, c'est pareil? Alors je vous dis pourquoi. Parce que la multiplication, c'est quoi? C'est la multiplication. C'est ce qui va développer le potentiel. Donc le 4 fois 3, il a exactement le même résultat que le 3 fois 4. Donc si je vous dis que l'amour qui est donné par la mère encourage le respect de l'enfant envers la mère, donc le respect de l'enfant envers la mère encourage l'amour, l'expression d'amour de la mère. Puisque 3 fois 4, 4 fois 3. Donc on a dit que l'homme, il a du mal à exprimer les sentiments. Donc qu'est-ce qui fait le bon Dieu? Il lui envoie une femme qui est droguée de sentiments. Donc si un homme veut que sa femme soit heureuse, il va être obligé de lui donner les sentiments. Quand il exprime les sentiments à elle, il comble son manque parce qu'elle a besoin de sentiments. Mais lui, en même temps, il va parfaire sa silhouette psychologique. Parce que comme lui, il a été élevé comme un garçon. Donc il a du mal à exprimer les sentiments parce qu'il est un macho. Parce que s'il était trop sentimental, il ne serait pas efficace. Maintenant, on l'a fait efficace. Mais maintenant qu'il est efficace, il est déficient au niveau son côté émotionnel. Donc on lui donne une femme qui a besoin d'émotions. Donc maintenant, il apprend à développer les émotions. Maintenant qu'il a exprimé les émotions, à son niveau à lui, il a complété, donc il est équilibré entre son côté masculin et son côté féminin. Pourquoi faire? Pour que quand son fils de 14 ans, il va faire une crise, il aura deux solutions. Soit il va se conduire comme un macho, il va lui dire « dégage, je vais crever », soit il va lui dire « écoute mon fils, je t'aime », il va le sauver. Comment il va être capable de dire « je t'aime » à quelqu'un qui le déçoit, parce que ça fait 14 ans qu'il s'est éduqué à dire « je t'aime » à sa femme? Donc le conditionnement qui est nécessaire, qui est nécessité par le besoin de la femme, c'est un conditionnement qui va permettre à l'homme de devenir le père qu'il aura besoin d'aide dans 14 ans. Vous croyez que vous entendez ça à la télé? Moi, je croyais que M6, ça veut dire... c'est 6 fois de la... Bon. Ça porte bonheur. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, Rabotai, c'est-à-dire que la Torah, s'il a été créé avant le monde et qu'elle va exister après le monde, c'est qu'elle va donner des éléments qui sont nécessaires pour traverser le monde. Et c'est très très puissant. Avec cette phrase-là, on peut écrire un livre. Ça, c'est une thèse en psychologie. Avec cette phrase maintenant, la résonance, ouais, c'est une phrase, c'est une thèse. Tu peux faire une thèse avec ça. Ah, maintenant, pourquoi on dit beaucoup? Pour embrouiller les gens. Non, parce que Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Méhod, c'est grand. L'homme, il est énorme. Donc, on ne peut pas se suffire d'une phrase par an. Genre, tu sais, j'ai compris un truc important. Warning, dans 8 ans. Non, Baba, il en faut à peu près 600 par jour, si tu veux être en temps réel. Tu peux devenir ingénieur. Combien de temps ça prend? 4 ans. Tu peux devenir ingénieur à l'école des beaux-arts, aux arts et métiers, en cours du soir, en 12 ans. Tu peux devenir un ingénieur en dilettante, en candidat libre, en révisant aux toilettes, en 28 ans. Alors si déjà un diplôme qui s'obtient en 4 ans, tu peux l'obtenir en 28 ans, le diplôme d'être un homme bien qui s'obtient en 120 ans, tu crois que tu veux l'obtenir en réfléchissant une fois par jour, ou là une fois par mois, ou là Rosh Hashanah, parce que tu es tombé sur un bon livre. C'est... Oui? Je dis en étant très fort, très intelligent, très, très, très vigilant, très impliqué, très racham, très pur, très kadosh, c'est pas facile. Alors, en étant débile, lourd, hala, méchant, vicieux et pervers, tu dis j'ai du mal. Eh ben oui. T'es condamné, mais en deux mots. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que l'enfant, il a besoin de la tendresse du père. Oui? Maintenant, la tendresse du père ne pourra s'exprimer que parce que l'enfant respecte le père. Mais le respect ne peut se faire qu'en reconnaissant l'amour. Donc il faut que le père, de son côté, exprime de l'amour, et il faut que le fils le respecte. Maintenant, la mitzvah du fils, c'est quoi? C'est de respecter. Maintenant, puisque tu ne peux respecter que quand tu vois l'amour, donc la mitzvah, c'est de chercher l'amour du père pour respecter naturellement son père. Donc toi, tu as une mitzvah, c'est comme mettre les téfilines. Tu dis, j'en ai pas, mais la Torah, elle s'en fout que t'en as pas. Tu te démerdes, tu trouves des téfilines. T'as compris? Donc il n'y a pas une mitzvah de trouver des téfilines. Il y a une mitzvah de mettre les téfilines. Eh ben, démerde-toi. Il y a une mitzvah de respecter le père. J'arrive pas à le respecter parce que pour le respecter, il faut voir l'amour. Parce que l'amour, parce que le respect, c'est la résonance de l'amour. Je le vois pas. Alors casse-toi la tête. Alors va réfléchir. Pour qui il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il te supporte? Comment il s'investit? Comment il te dit rien? Comment il oublie des bêtises? Comment il continue à te donner? Comment il accepte redoublement? Comment il ferme les yeux? Ah ben, tu vas trouver. Et comme tu trouves l'amour, naturellement, tu respectes. Maintenant, quand tu respectes le père, lui, naturellement, il exprime l'amour. Et qui est-ce qui a besoin de l'amour du père, l'enfant? Donc, en fin de compte, tu vas encourager ton père, ouais, à exprimer un sentiment dont toi, tu as besoin. Regarde le fils. Maintenant, quand le fils, il a besoin d'aider le père, parce que vous avez compris maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la mitzvah de respect des parents et d'éducation, elles vont ensemble. Parce que, par exemple, le père, il va donner l'amour, ouais, bien que ce n'est pas lui donner l'amour. Lui, il donne normalement la rigueur. Il donne la maîtrise. Mais il y a une facette d'amour qui est nécessaire qu'elle vienne par le père. Maintenant, puisque l'enfant, puisque la mère donne naturellement la tendresse, donc la Torah, elle veut que l'enfant, il aide le père à compléter la tendresse de la mère par la tendresse du père. Donc, ça va? J'étais trop vite, là. Non, si vous êtes fatigué. Bon, je vais vous expliquer. N'essayez même pas de retenir. C'est pour ça qu'on enregistre. Là, vous êtes en train de vous faire violence parce que vous dites le mec qui m'a mis deux thèses de philo dans la tête. Non, le but c'est pas de retenir. Le but c'est de comprendre, de participer. C'est comme si vous avez vu passer un TGV, c'est Torah grande vitesse, d'accord? Après, vous allez prendre ça, vous allez le réécouter, vous allez prendre des notes et vous allez gagner 10 ans de vie. Sinon, vous pouvez aller en faculté ou en yeshiva et encore qui aborde ce genre de sujet et travailler pendant 18 ans pour peu que vous ayez éliminé ce qui est faux chez Freud et ce qui est retenu ce qui est bon. Parce qu'après, il faudra repartir, que tu es obligé de coucher avec ta mère pour apprécier ta sœur. Ça, c'est encore compliqué. D'accord. Mais disons, si tu enlèves le mauvais de chez Freud et que tu gardes le bon, qui correspond à peu près à une phrase dans le Sforno, tout ce qui est vrai chez Freud, c'est une phrase dans le Sforno. Mais lui, il a écrit 40 bouquins. Mais ce qui est vrai, c'est une phrase dans le Sforno. Mais le Sforno, lui, il n'est pas des milliers d'années. Alors, il a écrit une phrase. Maintenant, vas-y, va, développe. La Torah, c'est des microfilms. Et la faculté, c'est des bibliothèques. Ça va. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'enfant, il est tard.
Non.
On est bien là ou bon, au niveau timing, vous êtes bien? Voilà. Non, parce que j'essaie de faire quelque chose d'intéressant. C'est dommage de faire. C'est pour des blagues et tout ça. Il y a des. Il y a Gad Elmaleh. Donc c'est quoi l'idée? C'est que on a dit que. Bon, attends, on va continuer. Après, on va revenir parce qu'il faut que vous ayez une image globale. Après, c'est marqué. Galoui vadoua lifnimi shemar vayolam. Il est dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde soit. Chez Aben mitiare mi aviv yoter mimo. Que l'enfant craint plus son père que sa mère. Mipne. Alors, l'enfant, il craint plus son père. Pourquoi le fils craint plus le père? Parce que le père lui donne l'attrait. Pas du tout. Puisque l'enfant, le père lui donne la Torah. Maintenant, le mot Torah et le mot Treha se ressemblent. Parce que dans Torah, il y a un H. Si vous prononcez le H, ça fait Treha. Donc, la Torah peut devenir une Treha. Maintenant, si vous faites une Torah Treha, parce que vous avez prononcé le H, plus tard, l'enfant, pour assumer sa Torah, il va être obligé d'aspirer le H. Ça s'appelle du H aspiré. Je sais que c'est stupéfiant, mais... Non, c'est au contraire. C'est pour ça que d'ailleurs, que quand vous fixez une ligne à l'enfant, faites attention que cette ligne ne soit pas blanche et en poudre. Parce qu'il risque d'y aspirer. D'accord, bon. Donc c'est quoi l'idée? Non, c'est une blague. Il ne faut pas le prendre mal ou craquer pour autant.
Oh là là.
Non, j'ai fait mieux. J'ai dit, quand tu ne fais pas le lien avec l'enfant, lui, il crée le joint. Non, lui, il roule le joint pour compenser le fait que toi, tu n'as pas créé le lien. Non, parce que les goyim, ils disent, les sociologues, ils disent que le policier, c'est le père, et la drogue, c'est la mère. Donc l'enfant à qui tu n'as pas donné une tendresse naturelle, il va chercher la tendresse artificielle. Et l'enfant à qui tu n'as pas donné une autorité naturelle, il va chercher une autorité légale. Donc il cherche le flic, parce qu'il cherche son père. Donc quand il se fait attraper, c'est pour ça qu'ils ont créé des flics de proximité. C'est le père. Comme les parents sont laxistes, ils ont créé l'intervention du flic. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Que l'enfant craint plus son père que sa mère, parce que le père lui enseigne la Torah. Mais c'est énorme. Les gens ils se demandent, c'est quoi le modèle du père? Bon, Françoise Zolto, elle va vous expliquer c'est quoi le modèle du père. D'accord? Mais tu vois le fils. Carlos, tu dis mince. D'accord. C'est pas grave. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi le modèle du père? Le père dur, le père gentil, le père François, le père... Comment fonctionner? Alors je te dis l'idée, c'est marqué. Que l'enfant, il craint plus son père parce que le père lui enseigne la Torah. Tu dis, mais alors la Torah, ça fait père! Mais non! Regardez, c'est facile pour vous rappeler. Père, c'est repère. Père, repère. Père, repère. Maintenant, le père, c'est... vérité, perpétuité, stabilité, fiabilité, c'est ça le père. Autant la mère, c'est compromis, arrangement, flou, crédit, rahamim. Le père, c'est... Je t'ai promis la récompense, récompense. Je t'ai promis la tannée, tannée. Parce que comment le père, par résonance, comment l'enfant, parce que comment ça se passe? On a des parents physiques. Jusqu'au jour, on n'a plus besoin de ses parents physiques. Parce qu'entre-temps, on a utilisé la présence des parents physiques pour fabriquer les parents psychologiques. Donc quand j'ai mes parents psychologiques, d'accord, c'est-à-dire j'ai mon cerveau, j'ai ma sensibilité, donc j'ai ma mère et mon père. Donc je dis, qu'est-ce que mon père aurait dit? Qu'est-ce que ma mère aurait dit? Ben, c'est normal, je les contiens. Ça va. Génétiquement, je les contiens. Parce que déjà, quand mes parents étaient des jeunes gens, ils n'étaient pas encore parents. J'étais en eux génétiquement. Après, ils m'ont conçu. Donc moi, on a le même patrimoine génétique. Comment on fait un test de paternité? Parce qu'on a le même patrimoine génétique. Donc après, à 120 ans, quand ils vont partir, génétiquement, je les représente. Parce que les gens, ils me rendent compte, ils me disent, tiens, vous êtes le fils d'un tel. Maintenant, je ne ressens pas du tout à mon père. Genre, mon père, il était petit, gros et chauve, et moi, je suis grand et élancé. Les gens, ils disent, vous êtes le fils d'un tel. Comment tu es le fils d'un tel? Pourquoi? Parce que ça sent. Même les gens, vous êtes de Gardaïa, vous êtes de Tunis, vous êtes de Djerba, comment tu sais? Ça se voit sur la gueule. Tu es émetteur. L'autre, il est récepteur. Donc, tu aimais quelque chose. C'est comme ça. Et des fois, c'est puissant. Des fois, c'est précis. Ouais. L'autre, il vient, il te dit, ah, j'ai travaillé des années aux États-Unis. Je lui dis, à Détroit. Il me dit, oui, Détroit. Maintenant, moi, pourquoi Détroit? Parce que j'étais dans un sentiment étroit. Non, je sais pas. C'est le mot qui m'est venu dans la tête. Alors, je lui dis, Détroit. Mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Maintenant, moi, je l'ai perçu. Maintenant, après, il faut avoir assez confiance dans son instinct pour penser que ce qu'on pense, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ou non, tu penses que t'es une poubelle et que ce qui tombe dedans, c'est fait pour être jeté. Chacun ce qu'il pense de sa tête. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que on a dit que l'enfant, il craint son père parce que le père lui enseigne la Torah. Or, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est un rave? Un rave, c'est vérité, stabilité, perpétuité. Si le rave, il se contredit, c'est pas un rave. Même s'il est âgé. Au contraire, parce qu'il est ravagé, d'accord? Si il te dit, il est instable, si il n'est pas fiable, Et si il n'est pas vrai, c'est pas un rav. C'est pour ça d'ailleurs que si un rav n'a pas la Yirat Shamayim, on n'a pas le droit d'apprendre de lui. Des fois, des gens ils me disent, écoutez, quelqu'un extraordinaire, oh, il a une Torah, oh, un discours, on est comme ça, les yeux ouverts, les lumières, les étincelles, les roues des Shemot. Ah bon? Mais il ne fait pas les brachot, il dit que c'est des rabbanades. Ah bon? Il serre la main des femmes, il dit on est tous des créatures de Dieu, d'ailleurs il sort avec la mienne. Ah, bon. Ça, c'est un rabbin, il n'y a pas d'Yirat Shamayim. Même s'il a une Torah extraordinaire, sachez, c'est une halakha ça, même s'il a une Torah extraordinaire qui sort des étoiles, tu dis c'est le Gilgoud de Moshe Rabbeinu, il est interdit d'apprendre. Parce que ce que tu reçois de l'autre, c'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. C'est très dangereux. Vous comprenez, non? Comment est-ce que vous voyez? Le contraire, quelqu'un, tu dis bon, le discours il est léger, tu vois. Mais il a une Yirat Shamayim de malade, tu dis ça vaut le coup. Moi par exemple, qui a un charisme et un débit buccal incroyable, c'est une vérité. Moi, le rave qui m'a réveillé, il bégaye. Il bégaye. Tu peux pas rester une demi-heure à écouter un cours, tu vas mourir. Comme ça. Mais une Yirat Shamayim, béton. Du béton. Le mec, il était comme ça. C'est comme ça, tu dis, c'est le Har Sinaï. Et moi, je suis pas du tout mytho, genre, ah, tu m'impressionnes. Mais tu sens, tu fermes les yeux, tu vois les légers comme ça de. Quand tu vas, quand t'es vrai tzadikim, les gens, tu vas là-bas, la barbe, l'assiette avec les billets de 500, tu dis, je sens rien. Je sens le déodorant. Pas cher. Pas cher, dommage. D'accord? Chacun, comment il sent? Ouais? Donc, c'est exactement pareil. Le père, il dégage quelque chose. Une puissance. Une sécurité. Et ça, par résonance, qu'est-ce que ça développe chez l'enfant? La structure mentale et la force d'affirmation. Je sais que c'est renversant, mais bon. Donc, d'un côté, il y a le père et la mère. La mère, qu'est-ce qu'elle donne? On a dit, elle donne la tendresse. Cette tendresse que ça provoque chez l'enfant, par réverbération, ça provoque l'initiative et la créativité. La mère, le père, lui, par son affirmation, par son intégrité, par sa droiture, il donne quoi? Donc c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la dureté. C'est de la fermeté, c'est de la sécurité. Ouais, c'est clair, c'est comme ça. En fait, je t'ai dit, on va le faire. Tu vas peut-être demander, non. Par contre, si le père se contredit, l'agma elle dit, si un père, il dit à son fils, il lui promet un cadeau, il lui fait pas, il lui apprend à mentir. Parce que comme c'est un repère, quand le repère est le faux, il devient un faux repère. Et l'enfant, rappelez-vous, c'est une caméra avec un capteur de 75 milliards de pixels, mais le capteur est sélectif. Quand tu fais des erreurs, il les capte tout de suite. Mais les bonnes choses, il faut les répéter souvent. T'as menti une fois, il va s'en rappeler toute sa vie. Mais tous les jours, t'as dit la vérité, il trouve ça normal. Donc, il faut augmenter, au niveau de ton comportement, augmenter le perfectionnement, parce que sache qu'il est en train d'enregistrer. Par exemple, tu travailles comme un fou, d'accord? Mais tous les soirs, quand tu rentres, tu t'écroules, tu tombes dans le coma sur le canapé. Sache que c'est ça l'image du père. Lui, il ne voit pas au travail en train de bosser comme un malade. Il voit tous les soirs un mec dans le coma comme ça. Il s'en fout que tu es fatigué, pourquoi tu es fatigué. Donc ça veut dire que tu dois te conditionner de penser que ton travail se termine 2 heures après que tu es rentré à la maison. Tu rentres avec la pêche, le sourire, les devoirs, la douche, l'investissement, la réflexion, le sourire, la finesse, la douceur, l'intelligence. Tu dis, mais je suis crâne, mais je suis mort. Si tu es mort, les enfants, ils sont morts. Si t'es vivant, ils sont vivants. Après 2 heures, oui, il comprend, c'est la soirée, bon, tu te détends. La mère, c'est pareil. La mère, elle veut vivre, elle veut kiffer, avant que les enfants ils sortent à 4h30. Parce que quand ils sortent, ça y est, maintenant, elle sait qu'elle est rentre dans le camp de la mort. Allez, les monstres, allez, venez, montez dans le 4x4, allez, vas-y, rentre à la maison, casse tout. Alors, elle s'énerve, elle est hystérique. Donc, le mec, il a une image de son père, zombie, dans le coma, et sa mère, hystérique, qui saute au plafond. Tu penses que ce modèle va les équilibrer. Alors que sachez que la réserve d'équilibre dans laquelle un homme va ponctionner toute sa vie pour rester équilibré, c'est l'équilibre de sa mère. Et la structure mentale qui va lui donner sa droiture, quand il aura des tendances de magouille, et quand il aura des tendances de la secrétaire, et qu'il aura des tentations de lourdeur et de pourriture, c'est la rigueur de son père. Donc sachez que le temps qu'ils sont en présence de nous, c'est là qu'on pose les bases. Après, c'est comme quand la balle elle est sortie du fusil. Tu ne peux plus assurer la trajectoire. C'est pour ça que les snipers ont des fusils très longs. et que les fusils à canon court ont une précision très limitée. Parce que la balle n'a pas eu le temps de stabiliser sa trajectoire. Donc les gens qui quittent l'école très vite, ou les gens qui rejettent l'autorité, ou qui rejettent les parents, tu vois qu'ils ont, ils ont pas de stabilité. Il n'y a pas de projet à long terme, tu ne peux pas leur expliquer les choses, tu ne peux pas leur dire un investissement, ils ne savent pas, parce qu'ils sont à court terme. Tu dis, écoute, tu sais, il faut investir maintenant, il faut prendre du temps avec ta femme, il faut parler. Dis-moi, je lui offre des fleurs. Je lui fais un kiff à Deauville. Non, il faut que tu t'assoies avec elle, tu parles avec elle, que tu apprennes à la connaître, que tu prennes du temps, que tu t'épanouisses ensemble, que vous ayez un projet commun. Un diamant, c'est bien, un diamant. Quel âge t'as arrêté l'école ? En seconde. Quel âge t'as arrêté l'école ? En seconde. Quel âge t'as arrêté l'école ? Je vous rappelle, quand un rabbin vous fait poser une question, qu'on répète une question, c'est pas qu'il n'a pas compris. C'est que vous, vous n'avez pas compris ce qu'il veut. Donc la question, c'est pas à quel âge t'as arrêté l'école, c'est à quel âge t'as arrêté de bosser à l'école. Donc le mec, il a quitté l'école en seconde, mais en CM2, il a arrêté de travailler. Donc quand un mec de 22 ans, il a un niveau de CM2, imagine, qu'est-ce qu'il faut faire? Des gestes, des dessins, des quoi? C'est le problème. Eh bien, les parents, ça fait partie de l'école. L'école, ça fait partie de l'école. Le travail, ça fait partie de l'école. Qu'on a dit, ben, c'est pas grave, grâce à Dieu, parce que tu peux apprendre plus tard. Donc, ce que tu n'as pas appris à l'école, tu vas apprendre avec la vie. La seule différence, c'est qu'à l'école, les exercices sont théoriques, alors que dans la vie, ils sont réels. Ça s'appelle dépôt de bilan, ça s'appelle... C'est, tu vois, c'est du sérieux, là. Là, quand tu as mis 7 millions, c'est 7 millions. Non. Tu vas à la banque, tu dis, je regrette. Mais monsieur, la marchandise, elle est à vous. Tu mets les dépareillés. Le marché est saturé. Une grosse lourdeur là. Dommage, tu aurais dû faire des boulettes parce qu'on aurait pu manger. Maintenant, il reste une grosse boulette, mais il n'y a rien à faire avec. C'est pas de la théorie là. Là, c'est pas le BTS blanc là. Là, c'est du concret. Donc, avant de rentrer dans le réel, tu t'entraînes dans le théorique. C'est bien. Ça va? Donc, comme j'ai dit, quand on arrive à la roupa, on amène les enfants à la roupa, et après, c'est quoi là? Quel bracha des parents ils font à leurs enfants à la roupa? De brasque. Mais débrouille-toi. Ah mais papa il manque 1000 euros. Mais mon fils, tu étais pressé de te marier. Tu t'es demandé comment tu vas faire, t'as pas de diplôme, t'as pas d'argent. Tu m'as dit je m'en fous, Dieu est grand. Eh ben demande à lui. Eh ben c'est toi le bon Dieu. C'est comme ça la vie. Comprenez ou non? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'on veut aller vers l'autonomie. D'un autre côté on doit les aider. Si on les aide, on les handicape. Si on les aide pas, on les détruit. Donc c'est un dosage. Donc quand ils sont petits, l'assistance physique est énorme, parce qu'ils sont tout petits, il faut les laver, il faut les truquer, il faut les torcher, il faut les truquer. Mais elle baisse. Par contre, l'intervention psychologique augmente. Ça va? Donc c'est rare qu'à 18 ans, tu dis, bon, rentre dans la douche, je vais te laver. Par contre, c'est le moment de parler. Et tu dis, non, j'arrive plus à parler. Je suis déçu, je suis écœuré, je peux pas. Il m'a trop déçu. Mais c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant. Parce que Medaber, ça veut dire parler, c'est la même lettre que Midbar. Midbar, c'est le désert. Quand l'enfant il est à l'école, ça s'appelle l'Égypte. C'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Metzarim. Les parents, c'est une prison. L'école, c'est une prison. Maintenant, on n'a pas trouvé un meilleur système pour apprendre la liberté que la prison. C'est comme ça. Oui. Pour apprendre la liberté, il faut accepter les limites. Donc, la liberté... C'est ce qui s'exprime dans l'espace qui est créé entre les limites. Tu veux une liberté sans limite? Tu veux? Ouais, je veux une liberté sans limite. Eh ben, arrête de respirer. T'es libre. Tu dis, c'est marrant, cette liberté, je l'ai vécue de manière très courte. Eh ben, il est mort. Je veux vivre sous l'eau. T'es pas un poisson. Je m'en fous. Anarchiste, ni Dieu, ni maître, ni vie. Et crève. D'accord? Donc, en vérité, la liberté, c'est d'accepter les limites. À la limite, hein. La liberté, c'est choisir son esclavage. Comme les gens qui disent, oh, vous savez, la religion, c'est beaucoup de contraintes. Il me dit, ouais, vous, les religieux, vous êtes coincés. Tu me trouves coincé, toi. Moi, j'ai soigné des psychiatres, mais toi, tu me trouves coincé. C'est qui le coincé? Comprenez ou non? En fait, la vie, c'est des contraintes. Bah, t'es obligé de te mettre ton jean. Déchiré. S'il n'est pas déchiré, t'as l'air de quoi? C'est vrai. Donc, tu l'achètes plus cher parce qu'il est plus déchiré. Il faut que je m'habitue. D'accord? Il faut que tu aies vu le dernier film, sinon t'as l'air d'un truc. Il faut que tu te dises des blagues dégueulasses, sinon t'es pas dans le coup. Il faut que, je sais pas moi, il faut que tu sois bête, sinon t'es pas une fille mignonne. Si t'es intelligente, tu fais peur. Donc il faut que tu sois gaga. C'est pour ça qu'ils ont fait Lady Gaga, d'accord. C'est un modèle, d'accord. Donc si t'es trop diplômé, t'es trop fine, t'es trop sûr de toi, le mec il dit attends, je vais pas épouser un mec. Alors tu fais ah salut, ah salut. Tu dis quel QI? Le QI de l'oiseau, le double, QI, QI, d'accord. Donc tu vois la société, c'est une fabrication industrielle de Brel. Et toi tu dis je suis bien branché. Mais t'as pas remarqué qu'un type, plus il est branché, plus il est déjanté. Donc si toi ton option c'est d'être branché comme le mec qui est déjanté, après tu t'étonnes que tu comprends plus rien à ce qui t'arrive. C'est incroyable, non? Donc c'est l'inverse. On a des principes grâce à Dieu qui ont 3500 ans. Ils ont produit des millions de tzadikim, des centaines de millions de gens intelligents, des milliers de prix Nobel. On n'a pas des leçons à recevoir des bouffeurs de ketchup. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on a un père, on a une mère. Maintenant, c'est quoi ces personnes-là? C'est des éléments qui vont nous être nécessaires. Donc quand la Torah, elle exprime la mitzvah de respecter et de craindre les parents, en fin de compte, elle donne aux parents, elle donne aux enfants leur rôle envers les parents, mais en même temps, elle donne aux parents leur rôle envers les enfants. Parce que là, on a dit, par exemple, que l'enfant, il craint plus naturellement son père que sa mère, parce que son père se conduit comme un père. On a dit pourquoi? Parce qu'il enseigne la Torah. Ah, donc il faut vite étudier la Torah. Bon, quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, il a quand même une Torah. Il a l'honnêteté, il a la stabilité, il a le respect qu'il donne à sa femme. L'enfant, il reçoit ça. C'est la Torah du père. Vas-y, donne-lui. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu reçois de ton père la crainte. Parce qu'on a dit que la résonance de la crainte, c'est la résonance de l'autorité, c'est la crainte. C'est que quand tu donnes de l'autorité à quelqu'un, il t'envoie de la crainte. Mais non, ce n'est pas une crainte, encore une fois, de peur des coudes. Non, simplement, comme un rave, tu le respectes parce qu'il t'impressionne. Tu lui fais du bien parce que tu sens sa valeur. Il n'y a pas de peur, il ne va pas te frapper, il ne va pas te maudire. Donc c'est pareil ton père. Ton père, tu le respectes. Pourquoi tu te lèves devant ton père? Parce que tu dis, grâce à Dieu, j'ai un père de folie. C'est comme ça la vie. Mais si tu dis, mon père, c'est un pauvre type, mais vu que la Torah m'a dit qu'il faut que je le respecte. Non, c'est marqué dans la Halakha que tu ne peux appliquer les lois de Kibbout Avaim que si tu as trouvé chez ton père une qualité qui n'existe nulle part au monde. Il faut que ton père, il soit le Gadol Adam, il soit le Baba Salé de la patience. C'est le Baba Salé de l'honnêteté. C'est le Rabbi de Lubavitch de la pureté. Jamais il regarde une femme. Maintenant, le mec, il met pas les tefillin, c'est pas ton problème. Mais il regarde pas les femmes. Tu dis, mon père, c'est Gadol Adam. Parce que si tu ne ressens pas qu'il est exceptionnel, tu pourras pas le respecter. Parce que tu vas le respecter à titre de quoi? Parce qu'il te donne du fric. Tu respectes une machine à sous, toi. T'as déjà vu un mec qui caresse un distributeur? Ça n'a rien à voir. Merci, monsieur. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que toi, en tant qu'enfant, tu vas naturellement respecter ton père parce que ton père, naturellement, il va donner l'autorité. Donc l'autorité du père entraîne la crainte de l'enfant. Mais la crainte de l'enfant encourage l'autorité du père. Si tu envoies balader ton père, il n'a plus envie de donner l'autorité. Or l'autorité, on a dit que c'est elle qui va structurer l'enfant au niveau de la structure mentale et de la force d'eux. Donc tu vas aider ton père à te donner des repères. Attends, j'ai pas une, t'as 2 minutes. Parce que j'ai même pas la feuille. Tu vois la feuille où elle est? Bon. Mais garde la question. Si elle est bonne, elle vieillit bien. Donc c'est quoi l'idée? Non, si vraiment tu comprends pas ce que je dis, il faut poser la question maintenant. Si c'est en plus, ouais, un élargissement ou quoi, je peux pas parce que franchement, là, je suis stressé par la montre. Il me reste 5 minutes alors qu'il me reste 2h15 de développement. Donc je vais vous faire du. Écoutez bien. Si ça veut dire ça, ça veut dire qu'on met un homme en face d'un enfant, on met une femme en face d'un enfant. Pour qu'à l'intérieur de lui, ce qui est féminin et masculin trouve son potentiel. Alors vous savez que le fœtus, dans le ventre de la mère, il est féminin-masculin au départ. Après, il se sépare. Il est majorité masculin, ça s'appelle un homme, ou majorité féminine, ça s'appelle une femme. C'est clair. C'est au niveau scientifique. Donc il reste toujours du féminin chez un homme et toujours du masculin chez une femme. Par exemple, d'après la Kabbalah, toute cette barbe-là, la barbe qu'on n'a pas le droit de raser, ouais, et ben, c'est une barbe masculine, mais cette barbe-là, ouais, elle est féminine. Dans la Kabbalah. Donc jamais un Mekoubal, il met cette barbe-là dans la bouche. Moi, je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc c'est-à-dire que même chez un homme, il y a des parties, entre guillemets, féminines. Même chez une femme, il y a des parties masculines. Comme le corps physique et le corps psychique, qui sont créés sur le même modèle, ouais, et le corps nishmatique aussi. Donc il y a des parties féminines chez un homme et des parties masculines chez une femme. On a dit que le côté masculin, puisqu'il a été développé en majorité chez l'homme, donc on a besoin d'aider le côté féminin. Donc on a dit l'influence de la femme, ça rend l'homme plus, entre guillemets, plus humains, parce que ça équilibre son côté féminin, puisqu'on a augmenté son côté masculin. Donc maintenant, il arrive à l'équilibre, il est humain. C'est pour ça, par exemple, que Nadav Aviou, les enfants de d'Aaron, ils sont morts. On dit pourquoi? Parce que quand ils ont amené un sacrifice, ils l'ont amené selon la Midatadine. Parce qu'eux, ils pensaient que le monde allait selon la Midatadine. Mais en vérité, le sacrifice, c'est la rachamim, c'est la miséricorde. C'est pour arranger les choses, c'est a posteriori. Et toi, tu veux quoi? Tu veux faire une kapara a priori. Donc comme tu vas selon la Midatadine, la rigueur, donc tu es mort à cause de la Midatadine. Maintenant, le Midrash, il dit pourquoi ils ont pensé ça? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Parce qu'il dit Rav Dessler, s'ils étaient mariés, ils auraient eu des enfants. S'ils avaient des enfants, ils auraient eu Rahamim, parce que c'est quoi l'enfant? C'est le crédit. T'as 20 ans de travail. Donc tu peux pas t'énerver à 8 ans, parce que tu sais que t'en as pour 20 ans. Donc si tu n'as pas de crédit, c'est parce que t'es pas d'enfant. T'as pas d'enfant, t'es pas marié. Midatadine, t'es mort. Donc le père, il représente la Midatadine. Mais comme il a été éduqué en tant que garçon, il a un défaut au niveau féminin. Donc on lui donne une femme qui va l'obliger à développer le féminin, pour que lui, il équilibre son féminin masculin. Donc maintenant, il va donner à l'enfant la majorité masculin et la minorité féminine. D'où tu sais ça? Parce que c'est marqué que l'enfant, il respecte plus son père que sa mère. Et l'enfant, il craint plus son père que sa mère. Or, le respect, on a dit que c'est la résonance. Donc, si l'impact, c'est le respect chez l'enfant. Donc, l'influence, c'est l'amour chez la mère. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, c'est comme la pub, par exemple, vous faites 100 000 exemplaires, 100 000 prospectus, on vous dit 4% de retour. Tu dis comment 4%? Au moins 90%, c'est comme ça, c'est le retour. Ouais, tu fais 1 million d'affiches et il y a 100 clients. Il n'y a pas 1 million de clients pour 1 million d'affiches. C'est normal. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que l'impact, il est toujours moins fort que l'investissement. Alors c'est pareil maintenant. La mère, elle donne. Le père, il donne. Maintenant, on a dit que l'impact est moindre. C'est quoi l'impact? C'est qu'un père, il va donner dans son comportement soit 70% de rigueur. Ça va. La mère, elle va donner 70% de tendresse. Vous avez compris à cause du plus. Ouais. Donc, quand l'enfant, il reçoit 70% de rigueur de sa mère et 70% de tendresse de son père, chez lui, ça donne du 50-50. Maintenant, il faut aussi les 30% de tendresse du père et aussi les 30% de rigueur de la mère. Maintenant, on a dit, le père, il a du mal à exprimer la tendresse, donc l'enfant, il a une mitzvah d'aider le père à exprimer la tendresse. Maintenant, comme le père, il a donné la rigueur, d'où est-ce que l'enfant, il va savoir que malgré que la rigueur doit être rigoureuse, il existe aussi des circonstances atténuantes, des exceptions. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Rahamim Bedin, parce qu'il a vu la tendresse du père. Ça va? Maintenant, d'où est-ce que l'enfant, il a appris la tendresse de sa mère? Maintenant, pourquoi est-ce que l'enfant, il a aussi besoin des 30% de rigueur de la mère? Parce que quand l'enfant, il a appris la générosité de sa mère, ouais. Mais d'où est-ce que l'enfant, il va savoir que si on se fout de sa gueule, il doit réagir, qu'il ne doit pas se laisser bouffer, que s'il rencontre un vampire, il doit être capable de dire non à cause des 30% de rigueur de la mère. Donc la mère, elle a dit, écoute chérie, moi je fais le compromis, je ne dis pas à papa ce qui s'est passé, mais toi tu bosses jusqu'à la fin du trimestre. L'enfant, il a glandé. Alors la mère lui dit, tu sais chérie, t'as glandé, on va tous partir en vacances et toi tu vas rester à Paris pour travailler. Hein? C'est comme ça. Quoi? Allez maman, je t'en prie. Non. Où elle va trouver la force, la mère, de faire la rigueur? Parce que l'enfant, il a une mitzvah de craindre la mère en priorité. Ish imo ve aviv tirahu. Donc, puisque la mère, elle est copine, elle a du mal à être patronne. Puisque le père, il est patron, il a du mal à être copain. Maintenant, un patron, il ne peut pas être copain et il ne peut pas être patron. S'il est entièrement patron, les vendeurs, ils font plus rien. Ils disent qu'ils sont stressés, ils vont au prud'homme. S'il est copain, il vient en 11h du matin, il dit, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Allez, arrête, je t'en prie, Maurice. Ouais. Donc, si t'es copain, il t'écrase. Si t'es patron, il ne fout plus rien. Donc, il faut être patron-copain. Patron, il y a des règles. Copain, je te tape sur l'épaule, on boit un café. Tiens, un petit billet en plus, t'as bien déchiré ce mois-ci. C'est patron-copain, mais c'est un équilibre. Donc, le père, il est patron, il doit être copain. La mère, elle est copine, majoritaire, elle doit être aussi patronne. Maintenant, pourquoi tu crois? Parce que ça veut dire que quoi? Il faut que... Non, alors encore, on recommence le calcul. Pour l'enfant... Qu'est-ce que ça va lui donner? Ça va lui donner Hesed. Oui? Ah bah ça va lui donner le din chez Hesed. Qu'il faut savoir que si plus tard il tombe sur un vampire qui le bouffe, si quelqu'un qui lui demande son énergie, quelqu'un qui l'utilise, quelqu'un qui la manipule, comment elle va savoir dire stop? Parce que sa mère, elle a su dire stop. Donc la mère, en apprenant, en disant stop à l'enfant, elle apprend à l'enfant à dire stop. Donc plus tard, quand lui sentira qu'on abuse de lui, il sera capable de dire stop. Donc le din du Hesed, il vient de la mère. Le chesed du din, il vient du père. Ça va? Super. Maintenant, quand la mère, elle a donné le din, elle a donné la rigueur, alors que c'est pas facile pour elle. Donc pour ça, elle a été aidée par l'enfant, puisque l'enfant, il a une mitzvah de craindre en priorité sa mère. Parce que c'est normal, il craint naturellement son père. Donc il n'y a pas une mitzvah de craindre la mère, de craindre le père, puisque naturellement il va craindre le père. Par contre, il y a une mitzvah de craindre la mère, parce qu'il a du mal à craindre la mère. Donc pour aider la mère à exprimer l'autorité, la Torah a donné une mitzvah à l'enfant de craindre sa mère. Maintenant, quand quand l'enfant va craindre la mère, il va aider la mère à appliquer sa mitzvah d'autorité. Mais en même temps, puisqu'elle, elle a grandi au féminin, comment elle va parfaire son côté masculin qui a été atrophié par son côté masculin, le féminin, grâce à son fils, à son enfant. On a dit déjà, ça c'est la première étape, elle a fait avec son père. Mais pour finaliser, que sa silhouette psychologique soit complète et que le côté féminin et masculin soit complet, il faut que maintenant, elle a besoin d'exprimer l'autorité envers l'enfant. Donc l'enfant, en craignant sa mère, il va entraîner qu'elle va être capable d'exprimer l'autorité, et elle, en exprimant l'autorité, elle va compléter sa silhouette psychologique, puisque le côté féminin étant masculin étant atrophié, il va être développé par le fait que l'enfant attend l'autorité de sa mère. Ça va ? Donc l'enfant, il se développe grâce aux parents. Le parent, il se développe grâce à l'enfant. Ouais. Et maintenant, l'Agma, elle dit que Shlosha Shutafim aime, ils sont trois associés. Pourquoi il y a une mitzvah de craindre les parents ? Il y a une mitzvah de craindre Dieu. Il y a une mitzvah de respecter les parents, il y a une mitzvah de respecter Dieu. Je ne comprends pas quel rapport. Mais attends, les parents, ce n'est pas le bon Dieu. Sachez qu'entre deux points, on peut faire passer une droite. Maintenant, la droite, elle va jusqu'où ? L'infini. Donc l'enfant, il est là. Son père, il est là. Donc si lui, il dit, je veux atteindre mon père, le père, s'il est équilibré, il dit, c'est mon fils, moi, je suis qu'une étape. Ça se passe plus loin. Donc, quand l'enfant est petit, qui c'est le bon Dieu ? C'est son père et sa mère. Qui c'est qui donne à manger ? Qui c'est qui le protège ? Son père et sa mère. Qui c'est qui le punit ? Son père et sa mère. Qui c'est qui récompense ? Son père et sa mère. Donc la mère, c'est Midata Hamim. Le père, c'est Midata Din. On a formaté chez l'enfant qu'il existe des principes, des limites, la punition, la récompense, la justice, l'injustice. Donc après l'enfant, il va avoir chez lui toutes les qualités qu'il faut pour faire un bon juif, un bon croyant. La seule différence, c'est que les parents, ils sont capables de ne pas se substituer à Dieu. Confirmation. D'accord. Mais c'est quoi l'idée ? C'est qu'il y a des parents qui tombent dans ce piège-là. Mais si quelqu'un il arrive à faire ça, de montrer à son fils, tu sais mon fils, moi aussi je mets les téfilines, moi aussi je fais Shabbat, moi aussi, aujourd'hui j'ai l'angoisse parce que les plombs ils ont sauté, et ben on va manger la dafina froide. Mais si le père il dit, mais j'en ai rien à foutre, moi ta religion de mère. Alors l'enfant il dit, ah si les repères ne sont pas des repères, pourquoi je vais suivre les repères ? Si l'enfant n'a pas de repères, il pète un câble. Maintenant pourquoi il a des repères ? Parce qu'il voit que toi tu as des repères. Maintenant quand toi tu tiens tes repères, lui tient ses repères. Donc l'enfant, il va devenir un bon croyant parce qu'il a été bien éduqué. Et l'enfant, il devient débile, malgré qu'il a grandi peut-être dans une famille religieuse, parce qu'il n'y avait pas de cohérence. Donc comme il n'y a pas de cohérence, donc l'enfant, il devient incohérent. Maintenant, c'est quoi le danger ? C'est que les gens, quand ils sont incohérents, ouais, ils acceptent d'être cohérents avec leurs incohérences. Il y a des gens comme ça. Je fais Shabbat, mais on va en voiture à ce qu'il veut. J'habite loin. Donc qu'est-ce qu'il apprend l'enfant ? Par contre, quand tu vas à pied, tu dis, mais je vais me crever, d'accord. Mais l'enfant, il va dire, quand on a des principes, on va au bout de ces principes. Alors que l'autre, il va dire, bah, tu sais, la vie, c'est une série de compromis. Et le compromis, tient ses promesses, puisqu'il est promis. C'est pas grave. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée, Rabotai ? Mais c'est énorme. Ça veut dire que pourquoi est-ce que Dieu, il a mis les parents sur le même niveau que lui ? Parce que la Gemara, elle dit, quand Hachem, il va dans une maison, quand il voit qu'on respecte les parents, il dit, j'ai bien fait de résider dans cette maison. C'est pas que dans la Gemara. Mais si Hachem va dans une maison et qu'on ne respecte pas les parents, il dit « j'ai bien fait de quitter cette maison puisqu'on ne respecte pas les parents ». Mais quel rapport entre le respect de Dieu et le respect des parents ? Mais Rabotai, si déjà tu n'arrives pas à respecter quelqu'un que tu vois, comment tu vas respecter quelqu'un que tu ne vois pas ? Si tu n'es pas capable de reconnaître la bonté de quelqu'un que tu vois et qui te l'a fait depuis que tu es né, comment tu vas reconnaître la bonté que Dieu t'a fait depuis que tu es né et que tu ne le vois pas ? Donc en vérité, quand quelqu'un il cherche le bien derrière son père et il cherche le bien derrière sa mère, en fait, il cherche le bon Dieu derrière ses parents. Ce qui prolonge la droite. Donc c'est normal qu'on a comparé le respect des parents et la crainte des parents avec la crainte de Dieu et avec le respect de Dieu. De la même manière que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre, et bien quand tu donnes le droit d'exister à tes parents, après tu trouves normal de donner le droit d'exister à Dieu. Maintenant, Dieu ne peut exister que dans ta vie que dans l'espace que tu lui crées. Donc la place que Dieu a dans ta vie, elle dépend de la place que tu lui donnes. Donc si tu dis « Dieu est absent de ma vie », c'est normal parce que tu n'as pas laissé de place. Or, quand tu as comblé la place de Dieu par l'orgueil, il n'y a plus de place pour Dieu. C'est pour ça que Dieu il a dit dans la Gemara dans Sota, Amar Akadosh Baruch Hu, En ani ve'u yechonim ladur ba'olam. Dieu il a dit, moi il est orgueilleux, on ne peut pas être ensemble dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il prend toute la place. Ah, tu dis, il prend toute la place, mais qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est l'ombre d'un souvenir, d'un risque, d'un espoir, d'une erreur, d'un cumul de molécules aléatoires et arbitraires. Ce qu'on appelle en anglais rien. Rien. Alors comment l'homme il peut faire de l'ombre à Dieu? Ça va? L'homme ne fait pas d'ombre à Dieu. Mais l'homme, c'est un passage de révélation de Dieu. Donc quand un homme il bouche le passage avec son orgueil, Dieu il se révèle pas dans sa vie à lui. Ah, tu vas dire, mais peut-être qu'il est plus tranquille quand il n'y a pas Dieu. Mais tu n'as pas compris. Tu peux être partenaire de Dieu ou tu peux être pion de Dieu. Donc quand tu n'es pas partenaire, tu seras pion. La seule différence, c'est que tu vas participer à une histoire, mais ou de manière active, ou de manière passive. Donc même le rachat, ouais, puisque Dieu, il y a aussi du mal dans le monde, et qu'il faut des acteurs. Donc quand le mec, il a décidé d'écouter son Yetzer Hara, en fin de compte, il devient acteur. Ah, pourquoi il est puni? Parce qu'il n'a pas été acteur de manière volontaire, dans une bonne volonté. Il était acteur dans une mauvaise volonté. Donc t'as chiré, en plus tu veux être récompensé. Donc l'histoire, elle va se faire. Maintenant, tu peux être partenaire et participer à l'histoire, ou tu peux être un pion et subir l'histoire. Pharaon, il n'a pas voulu participer. Vaïkhazak et Lefparo, ils sont sortis. Et lui, il est resté comme en train de s'énerver. Maintenant, tes enfants, ils sont comme ça. Tu les acceptes, tu grandis avec eux. Tu dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage, tu n'as pas compris. Essaye. C'est pas une fille bien, c'est pas un truc, tu te bats avec lui. Ben, au pire, c'est une expérience. Va à la choupa, fais-lui la joie. Tu dis non, je ne vais pas. Donc lui, maintenant, toute sa vie, il est marqué que son père n'est pas venu. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné rien. De toute façon, il est resté avec une conne pendant toute sa vie. Pour rien. Maintenant, si toi, tu es venu et tu dis, écoute, mon fils, moi, je t'aime. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Mais je t'aime. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Maintenant, le mec, peut-être il va se réveiller. Peut-être il va se réveiller plus tard. Mais si toi, tu refuses de participer, eh ben, tu vas être pion, inactif, et l'histoire, elle va se faire. Or, tu peux être actif et essayer de sauver l'histoire. D'accord? Regardez cette logique-là. Donc, ça veut dire que l'éternelle question, ça sera. Est-ce que j'ai plus apporté à mes enfants que mes parents m'ont apporté? Que mes enfants m'ont apporté. Oui? Et ça, c'est des générations et des générations. Puisque nous, on sait que ce qu'on investit, c'est pour plus tard. C'est-à-dire qu'à la limite, t'es même pas devant ton fils, t'es devant des petits-enfants, devant tes arrière-petits-enfants. Quelqu'un m'a dit... Quelqu'un m'a dit... Il dit, vous savez, c'est difficile de se couvrir la tête. En 2011, en plus, il fait chaud. J'habite à Ranana. Je vais vous expliquer une chose, madame. Vous voyez, ma grand-mère, elle a porté le foulard depuis son mariage jusqu'à sa mort. Et elle s'est mariée à 14 ans. Il faisait chaud en Algérie. Il faisait très chaud. C'était le sud de l'Algérie, le Sahara. Mais elle avait deux foulards. Un foulard très serré sur la tête et un deuxième foulard pour faire joli. Comment elle se lavait la tête? Elle se lave la tête. Non. Elle se lave la tête, elle se met contre un mur, elle ouvre le premier foulard, elle l'accroche contre le mur, elle est derrière le foulard maintenant, entre le mur et le foulard. Elle enlève le deuxième foulard, et elle se lave la tête, elle se coiffe, elle se remet le premier foulard, elle met le deuxième foulard. T'as pas vu ses cheveux? Tu dis, ouais, c'est trop. Maintenant, moi, je peux vous dire que je n'ai aucun doute, malgré que je ne suis pas foncièrement débile, malgré qu'à 15 ans, j'ai dicté des disserts de philo, malgré que je comprends pas mal de choses dans la pensée juive, je n'ai aucun doute que si je peux aujourd'hui dévoiler de la Torah, c'est parce que ma grand-mère, elle a voilé une chose qui aurait pu être dévoilée. Donc elle a caché quelque chose qui pouvait être dévoilé, et moi je dévoile des choses qui sont cachées. Et j'ai aucun doute sur ça. Vous voyez cette logique? Ça veut dire qu'un effort, il n'est jamais perdu. Quand tu es honnête, tu investis dans l'honnêteté de tes enfants et tes petits-enfants. Quand t'es malhonnête, sache que la malhonnêteté va sortir. C'est comme ça. Tu dis, mais je comprends pas, c'est pas grave, c'est les impôts, ces trucs, on l'embrouille. Comme tu veux. Après, tu dis, non, mais le client, il le sait, de toute façon, qu'on l'embrouille. Ah, je prends d'ici, je reprends dans là, je reprends du truc, je lui vends une marchandise pourrie, après, je lui dis, je dépose le bilan. Sache que ça va sortir un jour. Tu plantes des roses, il pousse des roses. Tu plantes des orties, il pousse des orties. Il faut arrêter de rêver. Donc, le type qui est malin, il voit à long terme. Le type qui est brêle, il dit, après moi le déluge. Mais t'es fou, toi. C'est marqué un homme, on le sort du Gan Eden et on le met au Gehinam parce que ses enfants, ils délirent. Je ne comprends pas, j'ai fait toutes les mises votes. Mais papa, mais c'est comme un sniff. Ouais. Tu as 84 magasins. Si tu en as 82 qui ne font pas de chiffres, c'est pas le 83e qui va sauver le... Donc, c'est des sniffs. Les enfants, c'est des sniffs. D'ailleurs, ça fait sniff. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut avoir une logique d'investissement depuis la conception. Parce qu'on dit l'éducation des enfants commence 20 ans avant la naissance. D'abord, tu t'éduques. Après, tu éduques ton couple. Après, tu éduques tes enfants en continuant à t'éduquer. Mais celui qui croit, grâce à Dieu, j'ai tout ce qu'il faut, je suis magnifique, je suis parfait. Il se met dans la glace. Même pas la peine de coiffer, d'accord? Aujourd'hui, ils sont coiffés quand ils sont décoiffés, c'est un truc très compliqué. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle continue pas à avancer, elle continue pas à développer, elle continue pas à grandir. Mais c'est quoi? C'est quoi le chametz? Le chametz, c'est une pâte qui a mal tourné. Donc c'est quoi le mal? C'est du bien qui a mal tourné. C'est quoi un divorce? C'est un mariage qui n'a pas été construit. C'est quoi un dépôt de bilan? Ben c'est une société que tu n'as pas suivie. Je comprends pas, c'est quoi ta question? Donc le mal, il est dans le bien. Donc il y a le mal, il y a le bien, l'axe du mal, il y a l'axe du bien. Mais ça, c'est une idée qui est bouchée, comme son auteur. Qui est bouche, d'accord? En vérité, c'est faux. Le mal, il est dans le bien. Le mal est dans le bien. Maintenant, le mal, c'est une dégénérescence du bien. Donc quand tu maîtrises le bien, il devient pas mal. Donc d'un côté ça fait peur parce que tu dis quoi, le mal est dans le bien. D'un autre côté tu dis mais c'est extraordinaire, puisque le mal n'est que la dégénérescence du bien. Donc la maîtrise du bien ne fait pas exister le mal. Donc le mal n'existe pas, c'est un halom, c'est une peur. La peur elle n'existe que dans l'espace que tu lui donnes. La tristesse c'est le temps que tu octroies à ta douleur. La maladie, oui, c'est l'importance que tu donnes à ton problème. Tout le mal n'existe pas. Vous me suivez ou non? Ah maintenant tu le fais exister, il existe. Tu donnes de la place, il se développe. Le feu, tu enlèves l'oxygène, il s'éteint. La bêtise, tu l'entretiens pas. Comment veux-tu qu'avec 6 heures de télé par jour, ton fils, il devient un ingénieur? C'est impossible. Il peut devenir que débile. Puisque l'intérêt de la télé, c'est que les gens soient débiles pour acheter de manière débile et conditionnée. Pour ça qu'il n'y a pas d'image dans la Torah. Regardez. Les gens, ils disent, ah, il m'a dit, pourquoi vous faites pas une Torah en dessin animé, comme ça les gens... Je dis quoi, il y a 2400 pages dans le Talmud, il y a peut-être 3 dessins. 2400 pages, tu te rends compte? Les commentaires, il y a 1 million de pages, il n'y a pas de dessin. Oh, mais c'est idiot, mais on vit à l'époque du dessin, il faut faire du design, il faut faire passer l'image, la communication, la hababa. Je dis, mais yashbem. Quand tu lis un texte, oui, l'image, c'est toi qui te l'as fait. Mais quand je t'impose une image, tu es obligé de la suivre. C'est pour ça que les gens ils me disent, mais monsieur le rabbin, excusez-moi de vous reprendre, mais dans la mer, il y avait une seule ouverture. Comment ça se fait que vous dites qu'il y avait 12? La mer rouge, quand elle s'est ouverte, il y avait une seule ouverture. Je dis, mais madame, le film du Rav Cécile B2000 n'est pas un documentaire d'époque. C'est une grave maladie, il s'appelle Nia. Ouais. Donc c'est exactement pareil, Rabotai. Là, ce soir, on a dit quelques éléments. Bon, Hachem, c'est bien, moi je me suis pas ennuyé, j'espère que vous n'êtes pas ennuyé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a pas transmis des... Voilà, c'est enregistré ici, vous avez bien, vous avez tenu, 2h07, c'est bien. Ouais. On n'est pas là pour transmettre des informations. On s'en fout des informations. Les informations, elles sont déjà là, elles existent, elles sont partout. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va devenir avec les informations? C'est très dangereux. Les goïms, ils ont créé une maladie qui s'appelle la culture. C'est-à-dire que si tu penses, ça suffit. Mais non, nous, on ne veut pas de la pensée, nous, on veut du vécu. Et pire encore, si tu développes la pensée et que tu ne vis pas en fonction de ta pensée, ça s'appelle un rachat. Même avec une barbe. Donc le but ici, à Botaï, c'est de créer une dynamique positive, que vous vous sentez investi, que votre lendemain sera meilleur que la veille. C'est ça le but. Si vous avez cette énergie-là maintenant, moi, mon travail pédagogique, je l'ai fini. Ah, maintenant, si en plus de ça, dans votre élan positif, vous voulez être en plus, vous voulez être savant, c'est bien. Ouais. Donc, voilà le cours, il est là. Je vais l'enregistrer, je vais l'envoyer. J'espère que vous allez l'écouter. Parce que moi, je fais... Ça, c'est pas normal. Je sais pas si vous me comprenez. Je fais pas, moi, des petits cours comme ça, sympathiques, en famille. Tiens, on bouffe un peu, on parle un peu. Ouais. Je peux pas, moi je suis un footballeur, un jour je pourrais plus courir. Alors, je vais pas faire des matchs de 5e division, je fais de la 1ère division. Maintenant, comme il y a une énergie positive, je vais même la même énergie que pour une salle de... Voilà, j'étais à Ashdod, il y avait 600 personnes. Là, on est là, comme ça. Comme... Ouais. Mais moi, c'est quoi l'idée? Moi, je mets la même énergie. Maintenant, quand par exemple, quand je vais dans une école, ils m'amènent 30 professeurs. Même les goïms, ils les mettent dans l'école. Là, je fais une formation pédagogique pour les profs. Maintenant, moi, je sais que chaque prof, il a 30 élèves. Oui. Vous avez une famille, vous avez des petits-enfants, vous avez des cousins, vous avez des copains. Donc, vous êtes des potentiels. Vous comprenez cette logique ou non? Si vous prenez une énergie, vous la développez cette énergie, c'est infini. Parce que l'essentiel est infini. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que si, grâce à Dieu, vous rattachez, vous avez pris de ça une énergie de travail, de vous asseoir, de fixer un temps pour l'étude, de faire vos mitzvot avec plus d'applications, de comprendre que c'est une mitzvah d'être à la maison. Les gens ne comprennent pas. C'est une mitzvah s'occuper de sa famille. C'est comme les tefillin. Les gens croient, bon, bah écoute, ça y est, j'ai fait la prière. On l'a déjà compris. Je vais raconter cette halakha là. Un homme était dans le bateau. Je devais prendre le bateau. Et le bateau, il y avait une semaine de voyage, il y avait Shabbat. Tu peux pas être dans un bateau Shabbat, truc. Alors il avait déjà pris les billets, il savait pas quoi faire. Il a dit, oh, comment je fais maintenant? Ils ont changé le truc. Il devait naviguer de lundi à jeudi. Finalement, il navigue de jeudi à dimanche. Qu'est-ce que je peux faire pour aller en Israël avec sa voiture? Le Rav, il a cherché, il a dit, écoute, c'est assez lourd, tu peux pas monter dans le bateau. Attends, j'ai 3000 euros de billets et tout ça. Le Rav, il a dit, mais tu vas seul? Il a dit, je vais avec ma famille. Ah, il n'y a pas de problème. Tu vas pour une mitzvah. Je sais pas si vous comprenez. Tu prends l'avion avec ta famille, tu rentres chez toi, tu t'assois avec tes enfants, tu es en train de faire une mitzvah maintenant. C'est comme si tu mets les tefillin. Maintenant, la kedusha de la mitzvah, la kavana de la mitzvah, la profondeur de la mitzvah, la pureté de la mitzvah, c'est la même chose. Vous comprenez cette logique ou non? C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que nous, de quoi on a parlé maintenant? On a parlé simplement de faire une mitzvah. Mais dans cette mitzvah, étant donné que la mitzvah, elle existe pour l'infini, donc ça veut dire que ce que tu vas investir, seconde après seconde, heure après heure, toutes ces prières que tu vas faire pour tes enfants. Moi depuis qu'ils sont nés, je prie pour eux tous les jours. J'y crois, si Dieu veut, quand il y a un problème, tous les jours. Les prières, les investissements, la douceur, la gentillesse, l'équilibre, la retenue, les explications, les répétitions, les Dvar Torah. Les gens, ils m'appellent. Le Rav, il m'appelle, il me dit, oh, ton fils, quel âge il a? On dirait qu'il a 35 ans. J'ai fait, dis quoi, tous les Shabbats, je parle de quoi, moi? C'est vrai que je raconte des blagues. Je dis quelque chose. Le mec, il est formaté. Quand il dit, bah, c'est ça, Dieu, il est à l'école juive, il a Yavné. Ah, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a Lucien de dire. Bon, il est avec Catherine, mais ça ne veut rien dire. Moi. Si Dieu veut, elle va se convertir. Toi, tu donnes le maximum. Après, il fait ce qu'il veut avec. Avec équilibre. D'accord? Donc, Rabotaï, on a un rôle tellement grand. Et la preuve qu'il est grand, c'est que Dieu qui nous l'a confié. Donc, s'il pense, Dieu, qu'on est capable de le faire, donc on a juste à se donner les moyens d'être à la hauteur de la confiance que Dieu nous a donnée, de nous confier des Neshamot. Donc, Bezat Hashem, qu'Hashem, il nous donne ses capacités au meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse, grâce à ça, amener Mashiach. Parce que la délivrance collective ne peut être que le confluent de millions de délivrances individuelles. C'est pas qu'il y a un petit groupe qui va accepter un troupeau et que le troupeau, il va amener ma chère. Non. C'est que chacun, il va faire son travail et que le confluent de tout ce travail va amener ma chère. Voilà. Donc, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, cette opération, donc vous êtes bénéficiaire. Il y a 10 cours sur Pessah. Si vous avez un peu le temps d'écouter, il y a aussi sur Shavuot. On a fait 10 000. C'est tout ce qui reste, donc je vous les donne. Et deuxièmement, je vais dédier le cours les Einu Nishmat de mon père, Avraham Shimon Ben Simcha. Amen. Amen. Et aussi pour Eliyahu Ben Aïcha, pour Yitzhak Ben Aïcha, pour Eliyahu Ben Traki, Ben Traki, et aussi pour le Rav Ben Tov, pour le Rav Hillel Pesner, pour le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Kadouri. Amen. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Des personnes décédées?
Rabban Khalifa.
Rav Shimon Khalifa. Gabriel Khal Soufir. Amen. Yaakov Mimoun. Amen. Il faut dire Amen. L'Amen est plus important. Amen. Yamin Koubi.
Amen.
Amen. David Elisha.
Amen.
Albert Elisha.
Amen. Fortuné Elisha.
Fortuné Elisha.
Amen.
Amen. Kachem élève dans des Chamot parmi tous les tzadikim d'Israël. Et à Mavdil Ben Chaim Lemetim, on va demander aussi que le bénéfice de l'effervescence du cours et soit pour la réfouache et les mains de. Ah, excusez-moi, on a oublié. Pour aussi, à la mémoire de toute la famille Fogel, aussi qu'Hachem y garde dans les Chamot, pour la libération de Gilad Shalit, et pour Amavdil Ben Chaim Lemetim, pour la Refoua Shelema, de un bon Amen pour Simcha Batflecha, pour Esther Batflecha, pour Gabriel Eliezer Ben Ivli Aziza, pour Meir Ben Chnini, pour Chana Bat Aziza, pour Nathalie Kamar Bat Saada, pour le Rav Shlame, Rav Yitzhak Veil, Rav Azimov, Rav Yosef Raim Ben Simcha Sitruk. Est-ce que vous avez des malades?
Sarah
Zeroual.
Amen.
Votre belle-mère, non? On prie tous les jours pour elle, je comprends pas. Que Dieu la protège. Hein? Pour les malades, pour les malades.
Phoebe
Koubi. Si vous avez le nom de la maman, c'est mieux. Si vous appelez, c'est pas grave. pas de malade dans le 16e, grâce à Dieu. Bon. Enfin, des fois, je reste un quart d'heure. Bon. Alors, Kachem leur envoie à tous une réfoua chénéma, même les gens auxquels vous penserez demain, si Dieu veut, que ce secours, il soit un mérite pour eux. Amen. Je m'excuse d'avoir tardé un peu, mais comme on est en famille, c'est... est-ce qu'il reste un peu de coca? Donc, le cours, il va être dupliqué. Après, je vais le transmettre à Alexandre. Comme ça, si Dieu veut, vous pouvez le réécouter. Maintenant, s'il y a des personnes...